Qu'est-ce que c'est que ça?
Bigre, tu savais que le cirque avait débarqué, toi?
Welcome to Redivetum Flying Circus.
Regardez-moi un peu comme ce cirque géant et
merveilleux. Radio Flying Circus from Ocade 2.
Arrêtons-y tout de suite. Le cirque, le cirque.
What, the circus?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Radio Béton Flying Circus, 2 heures d'insight de ce 3e jour de festival au quart de tour avec nos amis, toute l'équipe de Radio Béton, accompagnée des radios cousines de la Ferrarock. Pendant 2 heures, on va vous donner un petit aperçu de ce qui va se dérouler dès ce soir sous les 2 chapiteaux du festival au quart de tour. Des interviews avec les artistes qui viendront se présenter à vous. On aura l'occasion de les avoir tous et toutes pendant ces 2 heures. Les Orange Blossom, Spicy Box, Ditz, Bleu Shinobi, La Cigu et les Foulous Miziki qui viendront s'enchaîner pour cet exercice de l'interview. On est en forme encore pour ce 3e jour.
Oui, toujours, toujours.
Et on va avoir le plaisir de vous donner donc tous ces détails jusque 18h. Restez avec nous avec des petits morceaux aussi pour vous donner envie, si vous ne l'avez pas encore fait, de nous rejoindre pour ce 3e jour de festival.
N'hésitez pas à écouter les interviews avant de venir, ça donne toujours plus d'infos sur ce qui se prépare le soir même.
Et puis même si vous n'aimez pas en interview, vous allez peut-être aimer quand même en concert. Donc venez en courant, absolument. En tous les cas, le programme, je trouve qu'il est hyper alléchant. On a qui en première interview là tout de suite?
Eh bien, on va accueillir dans quelques instants les Orange Blossom qui viendront nous expliquer un petit peu l'idée derrière leur projet, nous présenter un petit peu leur couleur musicale, leurs intentions. C'est ça aussi qui est super intéressant avec un projet, c'est qu'en plus de l'écouter, quand on a les intentions, bah, généralement on adhère ou pas, d'autant plus. Donc on a hâte de vous faire partager tout ça, chers auditeuristes qui nous captaient donc sur Radio Béton 93.6.
Et sur quelles autres radios finalement?
Tout un tas de radios de la Ferrarock, j'imagine, qui sont en train de rediffuser ça un peu partout en France et écoutable à l'international en web radio, s'il vous plaît quand même.
Et suite à cette émission, vous aurez, comme chaque soir, l'occasion de découvrir les concerts en live depuis votre radio, si vous ne pouvez nous rejoindre sur place. Là aussi, c'est un petit moyen de se faire plaisir en écoutant l'outil radiophonique.
Avec des commentaires entre les concerts toujours phénoménaux. De nos chères animatrices.
À la pointe du journalisme musical.
Exactement. Puis ça termine même avec un after radiophonique légendaire, comme tous les soirs. Si vous restez, si vous rentrez, si vous avez des choses à dire, même je crois qu'il y a un standard, une sorte de standard téléphonique, c'est assez nouveau sur Radio Béton. Il y a eu quelques appels hier soir pour commenter votre soirée, peut-être pour nous dire quelques mots. Mais bon, ça ce sera bien plus tard, donc au début de la nuit, pour ceux qui seront encore là.
Je venais me joindre à vous avant qu'Orange Blossom arrive, parce que vous parliez de la Ferrarock et l'occasion de dire on n'a pas toutes les radios qui diffusent en ce moment, mais l'occasion de saluer quand même Radio Primitive, Radio Dio et Fréquence Mutine et Bob FM qui sont venus se joindre aux forces vives de Radio Béton pour couvrir tout ça.
Et on va passer un premier temps déjà avec les Orange Blossom qui nous ont rejoints. Bienvenue, et on va passer à une très chouette interview, quelques minutes avec vous. Donc bienvenue.
Merci, bonjour.
Bonjour, bon, on est deux du coup pour vous interviewer, Arthur et puis Ricardo juste à côté de moi.
Enchanté.
Bienvenue sur le plateau. Je vais commencer les questions. Alors moi je suis un peu un jeune débutant dans votre musique, dans le OBCU, Orange Blossom Cinematic Universe, si je peux me permettre. Mais c'est cool d'avoir peut-être un angle aussi nouveau sur votre musique, je sais pas. Alors j'ai eu du mal à mettre une étiquette, mais c'est un peu relou les étiquettes, hein, ça colle au front, donc on va plutôt dire des pancartes, ça permettra d'orienter peut-être les auditeuristes qui vous connaissent pas. J'ai pu lire dub oriental, trip-hop dans la description, dans des descriptions, mais en même temps j'ai lu cinématographique, ce qui peut peut-être être réducteur parce que je pense que votre musique se suffit à elle-même, elle n'a pas forcément besoin d'être un accompagnement. J'ai lu électronique aussi, mais il y a plein d'instruments, y compris acoustiques, il y a des voix, donc c'est pas non plus que électronique. Finalement, c'est peut-être trip-hop qui résume le mieux.
Bah écoute, je sais pas, moi j'ai envie de te dire, tu prends, c'est comme quand tu fais un cocktail, hein, tu mets plein de choses dedans, tu secoues, et puis voilà quoi. Donc effectivement, dans tout ce que tu as décrit, il y a de ça, il y a un petit peu de rock aussi.
Ouais.
Voilà.
Ok. Et est-ce que dans le processus, dans le processus créatif, c'est quelque chose qui vous recadre, qui vous encadre, ou pas du tout?
Non, j'avoue pas du tout. En plus, le compositeur principal, c'est Carlos, donc le batteur du groupe. Et franchement, il y a aucune limite. Il y a même pas de, enfin, il y a pas vraiment de réflexion autour de est-ce qu'il y a un chemin qui est tout tracé. C'est plutôt lui, il a tendance à faire des bases ici, à Nantes en l'occurrence, ou ailleurs, mais en tout cas en France, à faire des bases de morceaux. Et après, il est parti, il a eu l'occasion de partir sur le dernier album, en tout cas à Cuba, en Égypte, au Sénégal, au Mali, pour aller enregistrer des musiciens acoustiques sur place. Okay. Et du coup, revenir avec ça et faire toute une tambouille découpée. Et du coup, là, le côté plutôt électro, tout ça. Puis en plus, on a retravaillé derrière sur des parties plutôt rock avec différents musiciens sur Nantes qui font partie un peu de, si je peux dire, d'un collectif qu'on a depuis. Vous avez depuis quand même 20 et quelques années avec Racine, enfin le pianiste.
Je veux dire, Ange Blossom, un peu plus de 25 ans. Mmh. 25-30 ans.
Donc c'est pas mal de trucs, d'expériences, de moments qui se font. Puis des fois, on a mis peut-être 5 ans à faire un morceau parce qu'en fait, il finit par être coupé en deux, ça en fait deux différents. Mmh. Enfin, ça prend beaucoup de temps. Et puis Carlos, il a un processus de création qui est assez unique, donc c'est très dur de comprendre comment il fait, mais par contre ça marche quoi. Donc okay. En tout cas moi j'aime bien. Donc,
On en parlait tout à l'heure avec Ricardo, je te laisse la parole juste après, justement, de comment ça se passe quand il y a plein de membres qui créent, est-ce qu'il y a un grand gourou qui qui crée la musique, est-ce que c'est
Carlos
qui
ce serait lui?
Bah oui, Carlos c'est le grand gourou actuellement. Voilà, après comment dire, on utilise les compétences de chacun, si tu veux, chacun apporte son idée, enfin il peut y avoir des idées qui sont travaillées, enfin voilà quoi.
Moi je me demandais, quand vous vous retrouvez du coup sur scène, comme ça va être le cas ce soir, c'est quoi votre formation pour exprimer tout ça en live? On va voir quoi comme instrument sur scène? On va voir quoi comme nombre de personnes même sur scène? C'est assez flou
cinq.
Pour moi.
On sera 5.
On est 5.
On est 5, 6 si on compte l'ordinateur avec les bandes dedans, parce que oui, sur l'album il y a entre 30 et 50 musiciens, donc c'est dur de faire un concert avec ce nombre de personnes sur scène. Non, on est 5, du coup il y a Carlos à la batterie, il y a Fatoma au percu, tout un set de percus différentes. Il y a PJ au violon du coup, Maria qui chante et puis moi à la guitare.
Trop bien.
Et moi, les machines qui vont enrober tout ça avec des basses électroniques, des boîtes
à violon,
des orchestres, ouais,
des orchestres,
des
trucs comme ça.
Et donc pour des auditeurs qui ne connaîtraient pas du tout, il va y avoir du chant, de la voix, dans plusieurs langues. Sur ce set ou dans une seule langue plutôt?
En l'occurrence, c'est une seule langue parce que sur l'album, du coup, il y a cette liberté-là de pouvoir faire venir plusieurs chanteuses qui vont avoir chacun leur langue de prédilection pour chanter ou avoir des propositions dans certaines langues. Là, c'est Maria du coup qui chante, qui est avec nous depuis 3 ans et demi, voire un peu plus maintenant, et qui du coup chante en arabe. Elle est d'origine syrienne, donc elle a soit repris des chants que l'ancienne chanteuse qui était égyptienne avait écrit, soit elle en a changé quelques-uns parce que ça lui correspondait mieux, et du coup, ça va être que en arabe ce soir.
Ok. Ben moi je me demandais justement, avec une formule comme ça où vous prenez quand même, j'ai l'impression, un multiculturalisme, un mélange beaucoup de différents codes musicaux pour avoir, j'imagine que le but c'est aussi d'être fédérateur et de prôner un peu l'union de certains publics, enfin voilà, il y a un truc assez...
Même au-delà de ça en fait, je pense qu'on aime s'approprier ce qu'on aime dans ce qu'on trouve beau dans chaque musique, tu vois ce que je veux dire, chaque musique, chaque type de musique, chaque mouvement... Voilà, il y a des choses qui te touchent ou qui te touchent pas, ce qui nous touche, en fait, quelque part, on le mélange. Voilà.
Et du coup, ça doit être super intéressant pour vous de jouer dans différents pays, de jouer à l'international.
Ah bah oui.
Est-ce qu'il y a des pays où vous avez eu des expériences marquantes, ou alors des pays où vous aimeriez bien jouer, mais que vous n'avez pas encore pu explorer trop?
Je veux dire, juste pour moi, à titre personnel, c'est la Turquie, parce que c'est là que j'ai commencé, c'était mes premiers concerts avec Ange Blossom il y a 8 ans. Par contre, je vais laisser PJ continuer, parce que lui, des pays, il en a fait quand même plein, avec Blossom, du coup...
Oui, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en fait, chaque pays, il y a toujours quelque chose de très très sympa dans chaque pays. Il y a des pays où c'est plus compliqué de travailler, parce que techniquement, c'est compliqué, mais tous les voyages que nous avons faits avec Ange Blossom ont toujours été une expérience extraordinaire, et il n'y a pas un pays qui est plus beau que l'autre, c'est... Voilà.
Même les publics en l'occurrence.
Public même totalement différent, mais c'est bien au contraire.
Et ben justement, pour rebondir sur le public, on en parlait aussi tout à l'heure, puisque c'est assez fédérateur au niveau des publics qui peuvent venir, autant donc au niveau des pays qu'au niveau des genres musicaux. Comment ça se passe un concert de Orange Blossom? Qui est là? Qui danse? Qui ne danse pas? Qui regarde? Qui est absorbé? Je me posais la question, est-ce qu'on doit danser? Est-ce qu'on peut danser devant votre musique? Est-ce que si on est juste immobile et absorbé, c'est ok?
Bah oui, je pense que là pour le coup c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Après là on a cette chance là, c'est que c'est un groupe qui existe depuis maintenant une trentaine d'années, voire peut-être un peu plus. Et du coup là depuis, notamment selon moi en tout cas depuis le dernier album, on a l'occasion de voir un public plus jeune aussi qui vient sur les concerts, qui découvre soit de par les parents qui aimaient bien, du coup c'est cool, soit des gens juste qui découvrent comme ça. Et mais après oui, des réactions du public quand c'est sur des festivals ou des salles, en tout cas des salles où qui nous programment nous, du coup c'est un public qui achète des places pour venir nous voir nous. Ouais. Donc il y a peut-être un engagement entre guillemets physique qui est plus important. Par contre on a joué dans des salles assises où les gens sont vraiment en écoute. T'as des salles assises où au bout du quatrième morceau les gens vont se lever, s'agglutiner devant ou dans les allées. Il y a des publics où juste ça danse pas énormément, ça bougeote mais ça écoute et ça a beaucoup de réactions entre les morceaux. Ça dépend vraiment des endroits et de bon après ça c'est.
Est-ce que ça va slammer sur Ocar ce soir?
Pas sûr.
Pas sûr. Non.
PJ, tu veux slammer
ça slame tous les soirs.
Moi j'aimerais bien mais bon c'est un petit peu dangereux avec mon violon, c'est un peu compliqué.
Oui, vas-y.
Vous avez sorti votre dernier album, c'était il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, okay. Votre dernier projet.
Oui, c'est ça, 2 ans.
Vous en êtes où par rapport à ça? Est-ce que vous commencez déjà? Est-ce que vous avez envie de continuer à composer? Est-ce que vous composez continuellement des trucs? Ou alors, est-ce que le plus important, ça reste peut-être aussi de faire vivre ces trucs-là? C'est vraiment de la musique live
Pour le moment, ça tourne. Voilà, depuis qu'on a sorti l'album, on tourne, et puis on verra après. Quoi. Voilà.
Et puis ouais, en plus il y a des morceaux que je disais, tu vois, le processus de création de Carlos, il est assez particulier, il demande aussi du temps parce que c'est de la disponibilité pour soit composer, soit vraiment se mettre dans la compo, soit partir à l'étranger pour enregistrer d'autres musiciens. Donc c'est vrai que ça demanderait du temps. Je pense que la volonté elle est de, j'imagine, je vais pas parler en son nom non plus à Carlos, mais je pense que la volonté elle est de repartir sur un autre album à un moment, mais pour l'instant en tout cas on n'y est pas, peut-être sortir des trucs en attendant. Mais voilà, ça, en tout cas c'est en réflexion, mais on va dire qu'il n'y a rien de concret pour l'instant.
Et vous faites partie d'autres formations en attendant? Enfin en attendant, pas en attendant, mais en parallèle plutôt.
Ouais, moi j'ai un groupe sur Nantes qui s'appelle Valkedal, on appelle ça du disco rock à paillettes,
okay.
Qui est dans un tout autre style, on fait plutôt des bars, des guinguettes, des petits festivals, des trucs comme ça. Et j'ai un autre projet aussi sur Angers avec Pierrot et Manu de la Rouda, que vous avez eu il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. En plus.
L'année dernière, non?
Même sur les 40 ans de Radio Béton, là, il n'y a pas longtemps?
Oui, c'est ça.
Je crois que c'est ça. Et du coup, ouais, il y a un autre projet, du coup, plutôt à la base ska rock, mais on va dire que c'est du rock avec des influences de ska anglais, tout ça, plutôt new wave, machin. Donc moi j'ai ce truc-là aussi en parallèle. Et PJ.
Rien.
Rien.
C'est bien de focus aussi sur un truc.
Après, c'est aussi des interventions dans des projets d'amis.
Oui. Moi, si on m'appelle, on m'invite, je viens. Hein, voilà.
Et parlez-nous de Nantes un petit peu, parce que à Radio Béton, évidemment, et sur les radios Ferrarock, en général, on aime bien valoriser nos cultures locales, les cultures de nos villes, ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez nous parler de lieux, d'artistes, de concerts, de groupes?
Oh là là, mais à Nantes, il y a une foison d'artistes. Hein. Si je devais faire la liste, je pense qu'on serait un peu.
Vous nous donnez quelques noms, quelques exemples.
Je pourrais pas. Non. Sinon, j'aurais peur d'en oublier.
Vas-y, ouais, je vais faire une petite sélection.
Oui, vas-y.
Quitte à en oublier. Il y a un. Alors, je vais parler des copains, c'est terrible, mais bon, c'est important, c'est bien. Il y a un groupe qui s'appelle Médicis, que j'aime beaucoup, moi, sur Nantes, qui est un groupe de rock qui est super. On peut parler de Mimosa. Dans ces sphères-là, il y a notre Zao Tsagazan International aussi. Puis anciennement Kokomo, à l'époque il y avait les Elmer Footbeat et toutes ces époques aussi avec les EV. Il y avait.
Oh là là, c'est un nombre de groupes. Comme ça,
bah oui, mais il y a un nombre de groupes à crever là-bas. En tout cas, il y a plein de choses qui s'y passent et plein d'endroits pour le faire à différentes échelles, que ce soit sur des bars, des guinguettes, des petites salles de spectacle, des trucs un peu under. Il y a plein de trucs à faire.
Et puis ce qui est vachement sympa aussi à Nantes, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que dans tout le milieu musical, les gens se connaissent tous plus ou moins et il n'y a pas de clivage, quoi. Tout le monde se connaît.
C'est un village, quoi.
C'est un village, ouais, exactement.
C'est toujours marrant, je trouve, d'avoir le point de vue d'artistes qui ont de la musique plutôt justement world, on va dire, un peu tour du monde sur leur scène locale, ce qui se passe et tout. Je trouve ça marrant. Et justement, est-ce que il y a d'autres trucs qui vous intéressent dans des scènes internationales différentes, peut-être, que vous avez envie d'explorer, des recommandations, pas des recommandations, des trucs que vous avez envie de chercher dans certaines cultures qui vous fascinent, vous parlez de voyage à l'étranger, de trucs comme ça, il doit y avoir des trucs qui vous intéressent peut-être.
Ouais, après c'est des trucs je pense qu'on écoute aussi depuis des années, qui nous inspirent nous, même à titre personnel, sans forcément que ça s'entende dans la musique, mais je sais que moi j'ai pas mal écouté, j'écoute encore beaucoup, j'en joue un peu moins en ce moment, donc il faudrait que je m'y remette, c'est une bonne idée. Mais la musique malienne Touareg, on va dire, du désert, quoi, la musique Touareg, le blues malien, même musique, on va dire, d'Afrique de l'Ouest, pour faire grossier. Mais sinon c'est compliqué. Après étant un gros fan de trip-hop et de rock, donc tout ce qui est vague anglaise des années 90, ça me botte pas mal. Puis même Depeche Mode, tout ça, enfin je veux dire.
Ah oui, moi je suis un gros fan de Depeche Mode.
Au niveau des textes, du coup tout à l'heure vous disiez que c'était alors Carlos qui était du coup compositeur, on va dire un petit peu.
Oui, c'est ça, ouais.
Chef d'orchestre peut-être. Et du coup au niveau des textes, c'est les chanteuses qui les écrivent.
Oui, oui.
Et est-ce que ça se fait en accord avec, en concertation avec Carlos? Est-ce que elles écrivent un petit peu ce qu'elles veulent? Est-ce que comment ça se passe?
Il y a une forme de liberté quand même, hein, parce que bon, quand tu chantes. Tu peux chanter forcément quelque chose que tu veux chanter, oui. Enfin, tu veux donner un sens.
Ouais, c'est ça. Et puis en plus, je crois, il me semble que, tu me dis si je dis une connerie, mais l'ancienne chanteuse, Hand, elle avait et composé et écrit des chansons et repris, on va dire, des textes traditionnels qu'elle avait réadaptés. Okay. Et du coup, là, la nouvelle chanteuse, quand elle est arrivée, quand je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a des textes qui l'a touché un peu moins. Du coup, elle nous a demandé si elle pouvait les changer. Mmh. Et dans ces cas-là, lui aussi, c'est un truc que Carlos, il aime beaucoup, puis que nous, on apprécie aussi. C'est le côté.
Voilà.
Il y a un morceau qui a été joué pendant 10 ans avec le même texte, et là, d'un coup, elle va changer et okay. Ça apporte un peu
ça
de
frais. Ça met un petit peu de frais quand même. Ouais. Ça fait du bien.
Ouais, ouais c'est cool. Okay.
J'adorerais continuer de discuter avec ça avec vous, mais je crois qu'on est déjà pressé par le temps. Merci beaucoup.
Merci à vous en tout cas. Merci.
Merci les amis.
Puis je vous souhaite une bonne journée, une très très belle soirée.
Et bon festival aussi.
La soirée s'annonce très très bonne en effet. On va écouter évidemment un morceau d'Orange Blossom tout de suite. Awa dans le Radio Béton Flying Circus.
suite.
Le cirque, le cirque.
Le Radio Béton, Flying Circus, en direct pour ce troisième jour de festival au cœur de Tours. On a passé un petit instant avec les Orange Blossom juste avant et on a écouté un morceau, Awa. On a fait un petit voyage déjà pour ce démarrage d'émission avec un troisième jour de festival qui s'annonce chaud, chaud, chaud.
C'est le cas de le dire, mot chaud, chaud,
cette
chaud.
Voix. Cette voix traduit très bien ce qui s'est passé ouais, sur moi, les deux premiers ouais. jours.
Je pense que j'approche. Demain, je serai peut-être Barry Seas White.
Oui, tout à fait. Et tu vas te révéler. Nos voix vont descendre au fur et à mesure.
Il y a toujours un moment où je me mets à avoir une voix d'ogre au quart de tour. Mais là, ça va encore. Mais on sent quand même que ça crasouille un peu, quoi.
Et il y a les Spicy Box qui arrivent dans la tente pour... l'interview qui va bientôt commencer.
Oui, on va s'installer tranquillou.
S'installer tranquillou, ouais. Peut-être l'occasion.
Il n'y a pas d'urgence.
Mais on
est détendu sur ce plateau.
Bah, en fait, il y a ce côté un petit peu depuis que le temps est un peu plus certain. Hier, il y avait la petite veste et tout. Il y avait une petite fraîcheur. Mais là, la torpeur commence à se saisir de tout le monde.
Enfin, voilà, c'est pas mal.
Les shorts et les jupes sont sortis. Il y a un autre rocard qui est en train de se préparer là.
Ouais, je crois qu'il y a quelque chose comme ça.
Salut à vous.
Salut les gars, et n'hésitez pas à vous équiper de casques et de micros.
Vous allez voir ici, les conditions d'interview sont un peu démoniaques entre les deux balances. C'est un petit exercice de style.
Ouais, mais après, on a heureusement des casques qui isolent pas trop mal. Donc,
heureusement qu'il y a ça d'ailleurs. Ouais.
Ah, mais bien, ah ça y est, je t'entends.
Impeccable. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Salut la bétonnade.
Et bah, on est content de vous recevoir, et puis c'est un peu une occasion... spécial à la base, si je peux le dire, mais vous me le confirmerez. Nous, on a fêté les 40 ans de cette vieille radio qu'on est content de continuer de faire tourner. Ouais. Et on a fêté ça au mois de février. Et on avait super envie d'avoir les Spicy Box avec nous pour fêter ça, parce que vous faites un peu partie des murs de la radio, des affiches qu'il y a partout dans béton.
Du patrimoine mondial de l'humanité.
Du patrimoine mondial de la bétonité, en tout cas. Et puis du coup, on vous avait sollicité pour revenir nous faire des coucous. Mais je crois que c'était un peu short février, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, ouais, on se sentait pas prêt encore.
D'une part, on n'était pas prêt, et d'autre part, si tu veux, le triple, les 40 ans, tout ça, enfin, on parle que de ça. On parle que du passé, on parle du revival, du machin. Donc on s'est dit, nous, ce qu'on voudrait, c'est juste jouer au quart de tour,
ouais.
Comme un groupe parmi tant d'autres. Et finalement, ouais. C'est ce qui arrive, donc c'est parfait.
Et bah ouais, excellent.
Et en même temps, c'est difficile quand même, on en parlait tout à l'heure, quand un groupe se remonte, de ne pas parler du passé. C'est un peu... Moi, par exemple, d'un coup, je me suis dit, ah mais oui, Spicy Box, je crois que j'avais un titre sur une compile du Fer en 1996 ou 97.
Bah, c'est l'occasion de réécouter.
Fast qui m'a fait découvrir votre EP, tout ça, mais c'était...
Mais j'étais, c'est l'occasion de réécouter la musique toute fraîche. On aurait arrêté il y a 10 ans, toi, ça faisait revival. Mais au bout de 30 ans, c'est carrément un nouveau truc.
Ça vous a fait quoi de reprendre, du coup ?
Il y a 90% de la population qui viendront ce soir qui ne nous connaissent pas, qui n'ont jamais écouté cette musique. Donc c'est en fait, on va faire de la musique, ils vont écouter de la musique un peu qui est la nôtre, spécifique, et c'est ça qui nous intéresse principalement.
Ça vous a fait quoi de reprendre ?
Rien, on fait de la musique. Je sais pas, qu'est-ce que ça vous avait fait, vous ? Rien.
Ah ben moi, ça m'a fait plaisir de
revoir
mes potos, quoi, tu vois.
Voilà, passer un quart d'heure à dire...
Il a l'air vachement plus sympa que toi. Hein.
Est-ce qu'on fait un concours de sympathie ou est-ce qu'on fait un concours artistique de la musique qu'on propose dans ce festival-là ? Tu vois ? Non, mais en fait, je vais vous dire, c'est qu'en fait, et ça, je le savais, ça nous pend au nez, c'est constamment cette problématique-là qui est mise en avant. Nous, si tu veux, on a eu notre vie, on a fait autre chose. Là, on décide de faire ça, c'est un choix. C'est pas un choix pour refaire un truc. C'est vraiment cette musique-là, on pense qu'elle... Et peut-être on va faire des nouveaux morceaux. On a complètement transformé le set. On a le même kiff de faire cette zik et de gueuler ce qu'on a à gueuler aujourd'hui. Le reste, c'est de la littérature.
Et bah, d'ailleurs, ouais, dans un des... Il me semble que la chanson 3 de votre premier scud, c'était « Jamais soumis ».
Ah oui.
Et est-ce que vous êtes toujours insoumis ?
Insoumis, c'est une position à dire,
bien sûr. Politiquement, oui, on peut le dire.
Au sens politique du terme ou au sens...
Un peu les deux, en fait. Vous choisissez de répondre comme vous avez envie à chaque question. Et voilà, alors oui...
Musicalement, oui. Je pense que musicalement, on ne se soumet pas à un style plus qu'un autre. Ça a toujours été, d'ailleurs, depuis nos débuts...
on était autant attaché à la scène punk qu'à la scène free party, qu'à la scène hip hop, qu'à la scène reggae. Donc voilà, dans ce sens-là, on n'a jamais été soumis à une étiquette, j'ai envie de dire. Après, politiquement, bon, je sais pas si on pourra en parler, mais voilà.
Bah, tu peux
assumer.
Vous avez le droit.
Parce que justement, il y a toujours un contexte contre lequel on est en colère. T'as un t-shirt mourir plutôt crever. Non, mais du coup, effectivement, vous faites une musique qui était quand même en colère, et du coup, j'imagine que cette colère, vous la convertissez pour 2026.
Ah bah oui, de toute façon, c'est parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ça a complètement du sens.
Ouais, c'est tout.
Si on était arrivé dans un monde vraiment, toi, genre post-moderne, comme on rêvait peut-être à l'époque d'Obama, toi, ce serait peut-être un peu moins légitime. Mais là, finalement, on est là et c'est encore pire qu'avant.
C'est ça, rien n'a été résolu, quoi.
Ouais, alors pour faire un petit bond en arrière, moi je sais que mes potes aussi, à l'époque, on se disait, putain, quand on aura 60 balais, tout ça, bon, ce sera plus ou moins géré, toi, bon. Et en fait, mes couilles en ski, c'est de pire en pire. Donc finalement, on s'est dit, il faut venir juste redire ce qu'on a à dire.
Il faut reprendre le flambeau, il n'y a pas le choix, quoi.
Mes couilles en ski, je me la renote. Parce que je l'avais oublié, celle-là, il y a longtemps.
T'as raison, celle-là, elle est vintage.
Et ouais, je me la reprends, ouais.
On avait envie de vous faire discuter un petit peu en musique, un petit exercice du blind test, mais plutôt pour vous faire raconter un peu des histoires, ça vous dit ? Allez, c'est parti. Okay. Premier morceau, Monsieur Pablo, s'il vous plaît.
Allez, Beastie Boys.
Bah oui, c'est ça.
Non, c'est Run DMC, je crois.
Run DMC, ouais.
Ah ouais, exact.
Avec Aerosmith.
Ah ouais.
Un des premiers crossovers d'un groupe de rock et d'un groupe de rap. Je me suis dit qu'on allait commencer par le début pour parler de fusion avec vous quand même, quoi. Le rock, le rap. Alors, ouais. Ce moment où vous avez décidé de croiser, de mélanger tout ça.
Ah bah nous, on n'a rien décidé. Non, mais il faut comprendre une chose. Les Spicy Box, c'est pas un groupe de musiciens qui avait des réseaux. Spicy Box, on a répété dans un foyer rural pendant 10 ans.
Ok.
On savait pas du tout ce qu'on faisait. On n'avait aucune expérience musicale ou très 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 peu. Fanfan n'avait jamais fait de musique de sa life avant de venir. Et on était complètement out. Et on a fait ce qu'on a senti. Et il se trouve que ça correspondait au moment. On a écouté des groupes, on s'est dit, putain, ça ressemble à ce qu'on fait. Mais on était vraiment dans une naïveté totale.
Mais ce côté autodidacte, il va hyper bien au punk et au rap d'ailleurs.
Bah oui, enfin nous, toi, vraiment, 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 c'est ce côté-là. D'ailleurs, au départ, tout départ, à Béton, on avait un peu de mal à s'imposer, à se faire diffuser. Parce que toi, il y avait à l'époque les festivals, les gens, ils avaient tous des docks. Et toi, ils étaient là, ils buvaient des bières. Nous, on était en basket, on jouait au frisbee. Donc il y avait un petit décalage. Et c'est pour ça que ce soir on va rendre un petit hommage à Xavier Salva, puisque c'est lui qui avait choisi le générique d'un morceau pour les infos de Béton à l'époque. Donc ça nous avait permis un peu de... Mais c'est vrai que moi, avec du recul, la fierté que j'ai de nous tous là, avec mes potes, c'est qu'on était vraiment... On n'est pas un groupe de zikos, quoi. Tu vois, il y en a pas un qui avait joué avec, je sais pas, tel groupe. Nous, on était là, on se retrouvait tous les jours comme des cakes, 365 jours par an, dans la salle de répète au foyer rural de Brin-sur-Allonne, qui roulait jeunesse. Et puis on avait toute une asso, toi, on avait Zaz, on avait Alain, le sonorisateur, qui est toujours avec nous. On était complètement do it yourself, quoi. Totalement, mais pas parce qu'on avait décidé d'être punk ou je ne sais quoi, c'est que notre parcours de vie faisait qu'à ce moment-là on faisait ça, ou alors sinon on était clochard ou terroriste, je sais pas, tu vois.
Non, mais en fait il y avait toutes ces musiques aussi qui traînaient, qui nous faisaient kiffer.
Ah oui, bien sûr.
Du punk au rap, à la techno, le hardcore, etc. Donc notre musique, elle était empreinte de tout ça, quoi. C'était nos influences qui étaient multiples, en fait. C'était pas une époque où il y avait trop de... Enfin, nous, on n'a jamais voulu être dans un tiroir, en fait. Voilà, on voulait être... On était influencés par tout ce qu'on entendait, quoi. Et sur la fin, beaucoup par la musique électronique, qu'on a mixée avec le reste.
Ouais, voilà. Qui s'est augmenté un peu au fur et à mesure, qui a pris de plus en plus de place.
Peut-être, mais on est resté sur des bases quand même bien hardcore.
Allez, deuxième morceau. Alors.
Je connais que ça, mais bon, je sais plus comment ça s'appelle.
Moi, ça me dit rien du tout.
Petit indice, c'est un patrimoine de l'humanité aussi de Tours. Ouais.
C'est pas Stupéflip.
Allez, Daron.
Mais l'intro est longue.
Ouais, je me demande si le morceau il est pas comme ça tout le temps. Bah c'est les Fumuges qu'on écoute.
Ah putain, mais moi je...
Oh la vache.
je suis trop naze. C'est vrai que moi je suis guitariste dans Fumuges aussi.
Bah ouais.
Donc, j'ai ah la chouma.
Je suis grave nul.
Ah là,
excusez-moi
là,
les gars.
Carton rouge.
Les frérots, si vous m'entendez, ouais, je suis trop nul.
Ah bah vas-y, là il faut que tu parles un petit peu pour t'excuser auprès
de
tes potes.
Je m'excuse auprès de mes potes. En fait, moi je suis arrivé plus tard dans Fumuges, donc ça je l'ai pas joué.
Ouais, ça c'est vers les premiers albums,
mais
je pense.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais oui, bah effectivement, il y a peut-être un côté ressemblant entre les deux groupes. Enfin, quoi qu'on est peut-être plus violent que Fumuges, mais ce côté un peu mixé les influences aussi. Donc, ouais, c'est les petits frères, bien sûr.
Bah ouais, et puis du coup qu'on fêtait les 40 ans avec nous le samedi soir.
Bah ouais, on était là, ouais. On a brandi le drapeau.
Et c'était grave cool.
Ok, merci. Grave cool. Merci à vous, on a été heureux de fêter ça avec vous.
Bah trop bien. Allez, troisième morceau, pas Blitz. No matter how hard you try, you
can't stop us now. Sparage. No matter how hard you try, you can't stop us now.
Ouais, il l'a dit, t'as pas entendu.
Non mais il y a trop de sons là.
Je croyais que t'avais entendu, il l'a dit, c'est Rage.
Il l'a dit direct.
Et ouais, c'est Rage, il l'a dit direct, c'était Rage Against the Machine. On en a pris un pas pas trop facile.
Ouais, voilà. Pas trop facile, moi j'aurais pas trouvé. Sauf avec la voix.
Avec la voix de Zach de la Rocha.
Ouais.
Et c'est un groupe marquant pour vous, Rage.
Absolument, ouais, ça fait partie de ces groupes qu'on a beaucoup écouté, ouais. Premier album de Rage là-bas.
Ouais,
pilier, puis avec un message, avec comme ça, un espèce de truc brut aussi.
Et une énergie terrible,
ouais.
On a joué une fois avec eux.
Ah ouais?
Ah ouais?
Ouais.
Oh wow.
Festival qui s'appelait Rock à Paris dans le Parc des Princes.
Ah oui, ce gros truc là. Et ils ont fait votre première partie du coup.
Ouais, ouais. Enfin, non, nous on jouait à côté des chiottes, tu te rappelles sous les...
Ouais, c'est ça, on était au-dessus des chiottes, nous, en dessous la structure.
Ce qui était frappant, c'est qu'ils utilisaient peut-être 5 mètres carrés sur la scène, quoi. Ils étaient tous groupés, la scène était énorme.
Une petite scène, ouais.
Et en fait, ils envoyaient le boulet.
Et c'était terrible.
Et à cette époque, pour moi, c'est quand même le groupe qui a été un peu. Qui a représenté cette fusion rock-rap avec l'énergie, la colère politique, etc. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a d'autres groupes de cette époque-là qui vous restent comme ça, qui auraient été marquants aussi, ou avec qui vous avez joué peut-être?
Et qui mériteraient d'être écoutés aujourd'hui?
Bah, on a évoqué tout à l'heure, alors qu'on s'est planté, mais les Beastie Boys, c'était important aussi pour nous. Et puis, c'est vrai que j'ai jamais trop traduit les paroles, mais Fred, qu'est-ce que tu en penses? Politiquement, les Beastie Boys.
Ouais, Beastie Boys, c'est pas toujours très politique hein, comme parole. Hein.
Non, c'est un peu débilos souvent même.
Beastie Boys, mais on est beaucoup moins aussi. Politique que Red.
C'est un peu faire la teuf, voilà, c'est bon. Non, mais qu'est-ce qu'on écoutait à l'époque? C'était très divers, c'est très... On écoutait du Langkot bleu.
On écoutait la sonate de Kurt Schwitters aussi.
Votre avis, Xavier Berthelin nous faisait écouter de la musique expérimentale, voilà. Tchèque en vinyle 45 tours. Et non, mais ça nous faisait vraiment
kiffer. À 3h du matin
Non, on était vraiment. On a vraiment fait plein de choses. On a réécouté des vieilles cassettes, par exemple, de concerts de l'époque. Parce que toi, on n'avait plus rien. On a refait tous les samples. Enfin, on n'avait plus de disquettes. On n'avait plus rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Donc on écoute des vieilles cassettes qu'on retrouve par hasard. Et tu te rappelles, il y avait une intro avant que le concert commence. Je vais essayer de vous le faire. Ça faisait en boucle pendant
mal.
Un quart d'heure. Et avant qu'on monte sur scène, on a réécouté ça, on était complètement tarés.
Histoire de vraiment vider un bout de la salle avant de monter sur scène.
Non, mais vraiment cette insouciance totale, cette absolument aucun repère, si tu veux, stylistique, ou très peu, quoi. Et ça, c'était super avec des gens comme Xavier Berthelin qui s'émancipe totalement graphiquement aussi de tout un tas de choses. Vous le connaissez, Xavier, peut-être, ou ce qu'il fait,
de nom, ouais.
Voilà, c'est quelqu'un qui est totalement libre graphiquement et qui fait des choses vraiment. Par exemple, il avait peint le camion, mais au pinceau. Toi, un énorme Iveco, toi, à la gouache. Enfin, bon, voilà, ce genre de choses.
C'est un camion que les douaniers laissaient passer bouche bée, en fait. Ouais. Ils faisaient signe après, mais on les voyait dans le rétroviseur, on disait bah, trop tard.
Tu peux voir la photo sur le compte Instagram des Spicy.
Ah,
il y a une photo de ce camion.
Ouais. On ira voir.
Extrait suivant, messieurs, alors.
Lofofora. Ah, c'est des potes de tournée, ouais.
l'occasion, là, le premier tube de Lofofora, ouais, de faire parler un petit peu justement de tous ces gens avec qui vous avez dû jouer maintes fois à travers la France, j'imagine.
Bah oui, oui, mais sauf qu'on les a pas revus beaucoup depuis.
Oui, mais on a fait pas mal de dates avec eux, on était super potes avec Lofo.
Il y avait eux, il y avait les Burning.
One et Jack.
Ouais, One ouais, Jack un petit peu, ouais. On rappelle de Gnawa Diffusion, vous vous rappelez?
Ouais.
On s'entendait super bien avec eux. C'était complètement un autre délire musicalement, mais on faisait les percus dans les bois, on délirait ensemble, je me rappelle. Qui c'est qu'il y avait? Un groupe vraiment.
Dirty District.
Ouais, Dirty, ouais, ouais, ouais. Et puis, bon.
Donc là, pour tous les auditeurs, vous pouvez prendre des notes. Ouais. Alors, je pense que c'est de la musique super cool à aller écouter.
Ouais, les c'était surtout les bonhommes. Hein, c'était surtout les bonhommes qui. On s'en fout qu'ils fassent de la bonne ou mauvaise musique. Nous, ce qui compte, c'est qu'on ait un feeling humain.
Ah bah oui.
Là, c'était surtout ça, quoi.
Mais les auditeurs, je sais pas s'ils vont les rencontrer super souvent. Donc, je leur dis d'aller écouter la musique déjà.
Ah, bien sûr, bien sûr.
Carrément. Allez, le temps nous presse. Une dernière track.
Alors ça, c'est de la fusion de l'autre côté.
C'est les trois petits cochons dont il parle déjà.
Ouais.
Mais je sais pas.
Vous l'avez pas?
Non.
Ça, c'est ICP, c'est Insane Clown Posse.
Ah, ça me dit quelque chose.
Ouais. Et c'est un groupe ricain de hip-hop fusion, du coup, avec vraiment un côté plus hip-hop, mais avec quand même énormément d'inspi rock.
Ouais.
Et c'est vraiment les ancêtres de Stupeflip. Et c'est eux qui ont instauré tout le mouvement des clowns aux États-Unis. Ouais. Okay. Les gens qui aident les assos, les petites vieilles à traverser la rue, à faire leurs courses et tout.
Je connaissais pas.
Et qui se retrouvent une fois par an au festival des Boogaloo, qui est un festival complètement fou. Et en gros, le concept, c'est qu'ils se mettent la race une seule fois dans l'année très très fort. Et le reste du temps, ils sont super gentils. Et donc leur festival est complètement fou. Et voilà. Et c'est un groupe, moi, qui me fait. Quand j'entends votre musique tout à l'heure, je suis allé. Je suis allé écouter les balances et direct moi ça me met quand j'entends votre musique ou Stupeflip ou un certain nombre de groupes de cette époque là et bah moi tout de suite ça me fait penser à ICP aussi et à cette vibe là voilà
c'est vous qui pouvez prendre la note là et écouter derrière messieurs alors
ouais moi je connaissais le nom mais musicalement pas trop non
ouais et bah c'est un super groupe et vous me faites penser à eux quand je vous entends donc voilà.
Eh ben, je vais mettre ça dans ma playlist. Alors.
Allez, ça marche. On en avait prévu d'autres, mais finalement, la prochaine interview s'approche.
Ah, ils sont bavards. Hein.
Ouais, on va voir. Merci en tout cas d'être venu.
Merci
c'était chouette.
À vous.
Et,
cool.
On est bien pressé de vous voir ce soir et ce sera.
23h50.
Ouais. On n'est pas couché.
Sous le moyen chape.
Juste derrière.
Si vous n'êtes pas sourd d'ici là, assis ici jusqu'à 23h50.
T'inquiète, on fait ça tous les jours.
Ouais. Ah ouais,
au bout d'un moment, on aime.
Voilà, on aura la migraine dimanche.
Il y a un changement génétique qui fait que ça vous protège la tête et les oreilles, je pense.
Le cérumen, ça s'appelle.
Ah, et on va vous écouter quand même les Spicy Box avec. Plein pouvoir à ton corps et on revient juste après sur le Radio Béton Flying Circus.
Merci.
Merci à vous.
Merci à vous.
Super.
Hello.
cirque, le cirque.
Et on est toujours en direct du Radio Béton Flying Circus, troisième jour de ce festival au quart de Tours. Vous nous écoutez sur le 93.6 en local ou bien sur les radios membres du réseau. La Ferrarock, bien évidemment, poursuit nos interviews qu'on a entamées depuis une bonne quarantaine de minutes déjà avec des super chouettes groupes qu'on a découvert. Orange Blossom et Spicy Box à l'instant. On vient de s'écouter Plein Pouvoir à ton corps, une belle salve technoïde bien punky et dans quelques instants on va recevoir le groupe qui viendra clôturer cette belle troisième journée. Ce sont les Dits qui seront donc sous le grand chapiteau à partir de 00h50. Et je suis déjà rejoint par nos amis qui vont interviewer les Dits dans quelques minutes. On n'a pas eu trop l'occasion de revenir sur cet état mental et physique de ce troisième jour avec vous, les gars, pendant que nous attendons nos amis des Dits. Ça va toujours ?
Oh bah oui, ça va nickel. Hein. On a eu une très très belle deux premiers jours. Le mardi était vraiment un peu sous les chapeaux de roue, donc c'était super cool, quoi, avec un concert de exceptionnel où ça a un peu rassemblé tout le monde, quoi, donc c'était vraiment super. Et puis hier on a eu Modèle Actrice, moi qui m'a mis une bonne claque, qui justement a fait un concert de clôture dans le Grand Chap qui a vraiment plu à beaucoup de monde, je pense. C'était également Ballers qui était mis en lumière, l'association Tourangelle qui avait carte blanche au Petit Chap du coup pour vraiment une programmation très très cool. Et puis on continue ce soir notamment avec les Dits qui s'installent juste à l'instant là sur le plateau.
Et je vais vous laisser le lead de cette interview avec les Dits qu'on est très heureux d'accueillir pour le Radio Béton Flying Circus.
Absolument, on est très content de leur recevoir ce quintet. Heavy Noise formé en 2016 à Brighton, fortement influencé par les Jesus Lizard et Fugazi. Ils sont considérés par Joe Talbot, le leader d'Idles, comme le meilleur groupe de Brighton, si ce n'est le meilleur groupe du monde, rien que ça. Après deux albums et un EP, de nombreux concerts, ils seront en clôture de ce troisième jour du festival au quart de Tours. Tu nous l'as dit tout à l'heure, à partir de 00h50, sous le grand chapiteau. On est très heureux de les recevoir et ce sera Robin et Pablo qui m'accompagneront pour mener cette interview. Dits, bonjour, merci d'être
Bonjour.
Une première question, vous êtes rencontrés donc à Brighton, une ville qu'on sait être un vivier de groupes talentueux. On peut citer les Squid, les Lambrini Girls ou encore Architect. Comment vous expliquez que cette ville a autant d'influence sur les groupes musicaux?
So you've been in Brighton and we know that the city saw the birth of a lot of talented bands like Squid, Lambrini Girls or Architect. And could you explain why this city has a lot of talents like that, or and what did it brought to you?
You got like two music colleges there.
Sorry?
There's two music colleges. Like two big colleges where you go and study music. So okay. Like you're always going to get loads of bands doing that. Close to London as well, that always helps, I suppose. I mean, it's always been like a...
Yeah,
a, it's a music, like before even we got there. Yeah, for years.
It's a famous music town. And
it's London by the sea.
So. Yeah, loads of festivals, music festivals there, loads of venues. And I think that's why there's so many good bands.
Yeah. It's also like quite like left wing and progressive, I think, and
arty as well, isn't it?
Yeah, I think people in Brighton maybe follow their instincts a bit more, and that leads them to bands, I guess.
Alors, le premier point qu'ils ont abordé, en tout cas, c'est qu'il y a deux universités, enfin deux écoles de musique. Un peu, ça me fait penser à Tours, un peu justement, avec les deux écoles de musique, où ça crée un vivier un peu de scène locale qui est assez assez dingue, et que bah eux, ils ont toujours vu une sorte de grande scène musicale se développer même avant qu'ils arrivent à Brighton. C'est aussi pas loin de Londres, et du coup, ça permet aussi un accès beaucoup plus simple. Ils disent même que c'est Londres, mais en bord de mer, et du coup, c'est un peu mieux. Et c'est très aussi à gauche, un peu, genre c'est très un peu gaucho comme ville, et du coup ça facilite aussi les rencontres artistiques, musicales. Et puis il y a eu une sorte d'ouverture d'esprit un peu plus différente peut-être à Brighton, mais que tout ça fait aussi que bah, forcément il y a plein de groupes cool qui s'y développent.
Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont suivi un cursus, une formation dans un de ces collèges musicaux?
Did one of the band members go to one of the two colleges?
Yeah, all of us.
Yeah,
everyone.
That's where you met.
Embarrassingly.
That is where we met. Yes.
Et est-ce que pardon?
Vas-y. Donc c'est bien là-bas qu'ils sont rencontrés. Ils sont tous rencontrés là-bas et tout, mais ils se disent que c'est un peu ennuyant comme rencontre au final, quoi.
Et vous avez suivi y a des parcours spécifiques rock ou c'était plutôt des formations classiques, jazz?
What was the courses that you followed? It was rock inspired or jazz, classical? What was?
Well, most of us studied recording or production. Sam studied bass. So he plays bass guitar sometimes.
Yeah. Oh yeah, I did bass and. Yeah. More for rock and loud music, I think, more so than jazz or classical.
Yeah, which is why he ended up as a drummer.
Yeah, it's not like a conservatoire or like Brighton College of Music. It's just a, yeah. It was a bit of a piss take, to be honest, wasn't it?
It's a DOS, yeah. That's what it
yeah,
is.
Yeah, it was an absolute, it was an excuse to move to Brighton and
get a student
you
loan.
You could do fuck all and pass.
I'm playing bands.
Ça fait beaucoup penser à la musicologie à Tours, tout ce qu'ils viennent de dire aussi aux facultés des écoliers. En gros, ils ont étudié plus l'enregistrement et la production musicale. Un des membres aussi étudiait la basse, mais qu'en fait, c'est plutôt une excuse pour déménager à Brighton et se rencontrer des gens et monter des groupes, quoi. Qu'en fait, c'est un peu une esbrouffe, quoi, les études là-bas.
Très bonne excuse, en tout cas. Vous êtes rapidement parti de Brighton, puisque vous êtes parti en tournée dans toute l'Europe en faisant la première partie d'Idless, ce qui vous a amené à jouer sur des scènes énormes. Comment est-ce qu'on se prépare à affronter des foules de 15 000 personnes?
So you toured in Europe as an opener for Idols, mm-hmm. and you played in a lot of big venues. How do you prepare to play in front of 50,000 people?
I mean, like the first show, I was shitting myself, like really scared. But I think after we did like the second or the third, it was just the best feeling ever. Every night, you know, like yeah. I mean, I think the highlight was probably
it's Berlin was the biggest
Berlin,
one.
Yeah, it was like 13,000 people. Yeah. It was what we'd all dreamed of doing for years. So, yeah. When we're looking up and thinking, fuck me, that's a lot of people. Like, yeah.
Yeah, you couldn't see the back.
Like, no, you couldn't.
There's just no making out any faces.
It was just people. No, it's crazy. Yeah.
And I think it felt so quick. Like, it's like you blinked and it was done. Yeah. So it was daunting and scary to prepare. But as soon as you got up on stage, it felt like it was just done.
I think my favourite memory of the Berlin show was the two people in front of you hated every single minute of it. And you asked them, didn't you ask them mid-show if you're enjoying it? And they just went, no. Yeah. That was great.
Du coup, il disait que premier concert, vraiment, il se chiait dessus. Voilà. Il a littéralement dit comme ça. Et qu'après, au bout de 2-3, tu commences à juste apprécier le moment, à te dire que c'est la meilleure chose au monde qui est en train d'arriver. Et que le meilleur concert pour eux, en tout cas, c'était à Berlin, où ils ont joué devant 13 000 personnes. Et qu'en fait, il dit, tu peux même pas l'imaginer. En fait, tu vois juste des gens, puis des gens, puis des gens. Et en fait, ça s'accumule et tu captes même pas. Et que tout passe aussi en un claquement d'œil, mais pas du tout. Genre, tu clignes des yeux et c'est bon, le moment il est fini. Et que apparemment il y avait genre juste deux personnes qui étaient tout devant, qui étaient en train de passer un très mauvais moment, qui n'aimaient pas du tout ce qu'ils étaient en train de voir. Mais que bah, justement c'est un peu marrant de voir autant de gens, mais juste les deux personnes devant qui aiment pas le moment qui passe, quoi.
En parlant de festival, vous avez une histoire un peu particulière avec un festival français à Saint-Malo, La Route du Rock. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre histoire avec ce festival?
So yeah, you will play again at the festival La Route du Rock. It seems like a particular and important festival for you. Can you talk a little bit about that?
It was that was I think the most, when we played it the first time, it was the most people we'd ever played to. And I remember thinking that was like a real watershed moment. I don't know if that's an idiom. I don't know if it translates. But it really felt like
it really felt like that was the start of kind of our like love affair with France, I guess, because we'd done some French shows and they'd been good, but I think after that it seemed like at every show we'd play somewhere in France or even further afield there'd be somebody who was like, I saw you at Le Route du Rock and that's why I'm here. And yeah, it's really nice to get to go back again. Yeah, I think we're really looking forward to it.
Yes, that's still like a top five show we've ever played, I think.
Yeah, definitely. Yeah,
never forget that. Yeah.
Que bah, c'était en fait la première fois qu'ils ont joué dans un endroit avec autant de gens en France, en tout cas. Du coup, je sais pas si c'est bien traduisible, mais ils disent que c'était un watershed moment. Et du coup, genre, peut-être un moment qui tire les larmes un peu. C'était tellement beau et le public était tellement là avec eux que du coup, bah, il y a un truc un peu d'émouvant à ce moment-là. Et que c'est aussi un peu ce qui a créé une sorte de liaison amoureuse, une sorte de relation avec le public français. Parce qu'il y a plein de gens qui vont les voir après à d'autres concerts. Ils disent « Ah, je vous ai vu à la Route du Rock et c'était trop bien, j'ai envie de vous revoir. » Du coup, ils sont très excités d'y retourner et que top 5, enfin, il est dans le top 5 de leurs concerts préférés.
Il y a presque un an, vous avez sorti un single qui s'appelle Don Enzo Magic Carpet Salman. Un morceau de 9 minutes en 3 parties dans lequel vous critiquez la place de l'intelligence artificielle dans la création artistique. Pourquoi avoir choisi de parler de ce sujet-là en particulier?
So you put out the song Don Enzo Magic Carpet Salesman almost a year ago. It's a 9-minute song long that criticizes the place of AI in the artistic world, in the creative world. Why did you choose this topic?
I think it's... I mean... It really seems to me like we're losing a lot of character in things, and I feel like there seems to be a lack of personality in music anyway, and I feel like because of that we've just sort of become attached to, like, you know, purely something sonic without, you know, thinking about where it comes from or what it does. I really worry about it a lot. I was on holiday recently and I was in a bar and I was listening to the music and it sounded strange to me, but I couldn't put my finger on it. And I tried like Shazamming and looking for it, nothing was coming up. And it took me a while, but I realized that somebody at the bar had typed in a set of key words on that, what do they call it? Is it Sora or this is like a and it was all the music was like it sort of like did like 4 sentences and each one would sort of like have something to do with sun, the beach, or like surfing or waves, and then it would sort of repeat but like they'd be slightly different each time, and it would do it in like a it was like an AI song, but like to a casual listener you wouldn't know. And I think it's going to take up those sort of spaces first.
We heard it yesterday at that first service station we got into France, that the lyrics are absolute fucking nonsense.
Like it's like it almost makes sense if you didn't pay attention to it, and then you're like, oh wait a second, that doesn't, like,
it's slop, isn't it?
Yeah, it's just so, I find it so strange. Sorry. And I think it's going to really impact, like, not just what people are listening to or whatever, but it's going to impact people's like attention to detail. If you can't think about anything in any sort of with any sort of
depth,
structure, or exactly, then you know what else is going to happen? It could be anything, you know.
And all the musicians are going to lose their jobs to AI.
Yeah, but it's also just, I think everything will go wrong. Like people's like laws will be just like they'll be written with this sort of without any human element to them. And it won't make any sense. So, well, they might get rid of judges or something like that because they can, you know, apply logic to it. And I think it's a really, really dangerous path to start going down.
So the only hope you've got is it, like, that you allude to in the song is eating its own tail, and that in music, for example, where AI music starts consuming itself almost to the point where it just disintegrates.
And it'll become the same thing.
Yeah.
Everyone will be exactly the same.
Because there's no human input. Yeah.
Yeah.
Je vais essayer de synthétiser tout ça parce qu'il y a plein de sujets hyper. It's okay. Bah, ils ont commencé tout simplement en disant que ça, c'est un sujet qui importe également parce que, comme si avec tout ce qui nous entoure, on commençait à perdre un peu de caractère dans la musique, dans la manière de faire de la musique, même d'écouter de la musique. Et qu'on commence à être un peu désensibilisé par les détails. Qu'en fait, on reçoit des choses soniques, enfin sonores, et qu'on commence à perdre un peu cette notion de détail et de d'où ça vient, comment ça sort, comment ça s'est fait. Et après, du coup, le groupe a raconté une anecdote de, ils ont entendu une chanson dans, je sais plus si c'était un resto ou un bar, mais pendant qu'ils étaient en vacances. Et il y avait un truc étrange dans la musique et ils n'arrivaient pas trop à comprendre d'où l'étrangeté arrivait. Il a essayé de Shazam, de trouver un peu d'où venait ce son. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était un logiciel d'intelligence artificielle où tu mets des mots-clés et en fait, ça commence à te faire une musique comme ça par intelligence artificielle. Et que bah, tout ça, ça commence à devenir très dangereux bah, pour les métiers artistiques, évidemment, mais également pour les auditeurs, auditrices qui, du coup, enfin commence à être justement, pour revenir un peu à ce qu'il disait au début, désensibilisé à tous ces, aux détails de la musique et à l'humanité, enfin le côté humain en fait dans la musique. Mais que c'était assez ouf, il disait bah tu tapes des mots comme plage, soleil, des choses comme ça, et en fait ça va juste faire des sortes de phrases comme ça de manière aléatoire. Et des fois, si tu prêtes pas vraiment attention, si t'es pas concentré sur la musique, ça peut passer, tu te dis ok ça a du sens, mais qu'en fait une fois que tu mets le nez un peu plus dedans, tu te dis bah c'est, ça a aucun sens, c'est pas quelque chose de cohérent quoi.
C'est intéressant parce que le groupe a fêté ses 10 ans là il y a peu, et je sais que c'est, vous êtes un groupe qui fait attention justement à la production sonore, à comment est-ce que ça sonne, à avoir du détail justement. Et est-ce que c'est un paramètre que vous prenez en compte pour les compositions futures par exemple?
So talking about AI and the attention that you put in detail in the sound, you will celebrate your 10-year anniversary of the band. Is that a way to continue your music, to continue to take attention to the details? Or what's next also for, what do you consider for the 10-year anniversary of the band?
I think it was last Saturday, we did two shows at the first venue we played in Brighton, so... had a long, long day, but
yeah, I don't know how much attention to detail was. Yeah,
that was a bit.
We played two shows, and both of them were an hour and a half long. I think it almost felt like a wedding band, you know, at the end. Like, but
divorce band.
But yeah, it was good. We like.
It feels crazy that we've been a band for 10 years. Like it doesn't. I don't know.
Yeah.
It's still crazy that we're not even sat here, let alone 10 years from when it started, still going.
Like, but yeah, I guess the challenge is now is like, so we're going in to write some more music now, and it's like, how do you make it different? How do you make it fit the current state of ourselves, I guess? Like, how do you...
Without doing the same thing.
Yeah. How do you demonstrate your evolution?
Yeah, there's a real danger just to kind of to become a pastiche of yourself, really, isn't there?
I think of loads of bands that have done it, and like, you know, started off exciting, and then they get to like the third album, and you're like,
what's the point in doing it if you're not going to challenge yourself and try and like, without sounding like David Bradbury, like grow. Grow artistically at the very least, you know,
and make it interesting.
That was kind of the whole point with Don Enzo and Kalimba. It was just to try and, you know, subvert what we've done, just on its head, and
do
whatever the fuck we wanted to do. And that was
my dad always says it's about like soap opera actors. He doesn't understand the point. Like, if you went to all of that trouble to go to acting school and carry on, why would you go and be on the same show for 40 years or whatever?
Fuck that.
Doing the same set.
Become a wedding band.
Yeah, exactly. Same thing, isn't it, I guess?
Yeah.
Same audience as well.
Alors du coup, pour les 10 ans, ils ont déjà fait, en fait, samedi dernier, ils ont joué deux concerts dans la première salle du premier concert de Dietz. et ils avaient un peu l'impression d'être un groupe de mariage, quoi. Ils ont joué pendant une heure et demie un énorme set. Ils ont même fait la blague de plutôt un groupe de divorce. Et après, bah, pour la suite, c'est un peu de se challenger un peu à chaque fois, d'essayer de se renouveler, d'essayer de montrer l'évolution, leur évolution même personnelle, musicalement aussi, comment t'arrives à faire ça. Parce qu'ils voient pas trop l'intérêt de refaire la même chose qu'ils ont déjà fait sur les autres albums, que ça ferait un peu pastiche du groupe au bout d'un moment, et que c'est tout le challenge justement d'essayer de comment tu montres ton évolution, comment tu te forces aussi à aller ailleurs, pas rester dans ta zone de confort. Et il y a même eu le parallèle avec genre les acteurs qui jouent dans des soap-opéras, genre je sais pas comment on pourrait traduire ce... C'est une sorte de feuilleton télévisé, de série B, quoi. Tu passes ta vie à essayer d'être acteur et au final, tu joues dans la même série pendant 40 ans, quoi. Et t'es toujours dedans, quoi, et t'en sors pas.
C'est intéressant, cette notion d'évoluer, de toujours rechercher à aller ailleurs, parce que ça va un peu à contresens de ce qu'on voit, en tout cas en ce moment, chez certains groupes, notamment dans la scène post-punk, où il y a quand même une certaine uniformisation du son et des compositions. Est-ce que c'est justement pour ça que vous défendez corps et âme d'appartenir à cette scène post-punk anglaise?
So you talk about challenging yourself, always be against what you did before, and maybe we can observe it in the current state of like post-punk music, something that is becoming more and more standardized. Is that why you claim that you are a post-punk band, to challenge this idea that it's becoming standardized?
I don't think we ever claimed we were a post-punk band. It's just kind of a label that got put on us.
Broader that it is, like, I mean, it's a very broad genre, isn't it? Anything could be post-punk. Like, everything's post-punk as well.
After punk.
I mean, but like, I do. It is. I feel like we got really tired with the label because, I don't know. You look at a lot of bands that come out; they sound exactly like you know, one of the other bands that started in 2014. You know, they sound. There's like lots
of
bands.
They sound like Gang of Four. And
oh yeah, but I feel like it's. It's more than that. There's all this band. Like, I remember, like, when we started, and when I was watching bands just before we started, there was all these, like, really exciting new bands, and, like, seeing all of the bands, like, you know, whether it was Squid or Shame or Black Midi, they were all really exciting, and it was different to what was there before, or Ice Age and things like that. And now I feel like I see a lot of bands in the past few years, I'm like, oh, that's one that's doing Squid, or that's one that's doing Ice Age, or that one's doing Preoccupations, and it's, oh, you know, that one's doing Idols. And I feel like, the thing is, I still like that music, and I listen to it, and I go, yeah, they're doing a good job of that, but I feel like they could be pushing the boat out a bit more and trying some different things.
At least
trying it,
even if you sound like those bands, but you it's obvious you're making a bit of an effort, like... Like, we're not saying we're the fucking be all and end all and like musical revolutionaries, because we're blatantly not, but you know, you've got to try at least.
And I still, you know, I see bands like that and I still like them. I still go, oh yeah, it was good. You did a good job of that. But I kind of wish there was a bit more, you know, sort of a bit more cutting edge going on.
Je ne sais quoi.
I think we get put in with the post-punk genre because we play with a lot of those bands, but I wouldn't say we are post-punk specifically. But again, that's it, right? We're doing new stuff to try and broaden the horizons, and maybe we won't be put under that
genre. Maybe we will,
and maybe we will. Probably
we definitely will.
Yeah.
Donc ouais, en fait, le terme post-punk, il le trouve presque, bah, que tout peut être post-punk, parce qu'en fait ça veut juste dire après punk, du coup en soi tout peut appartenir à ce genre là mais que là où ça peut questionner un peu, c'est que au tout début, quand un peu le terme est ressorti pour plein de nouveaux groupes comme Squid, comme Black Midi, exactement, comme Ice Age, où en fait il y avait, chaque groupe avait un peu sa particularité, un peu son élément un peu qui les sépare des autres groupes, de ah ça c'est un peu nouveau, ça je l'avais pas entendu dans les autres groupes. Et qu'en fait maintenant, comme il y a beaucoup de plus en plus de groupes qui commencent à s'essayer à ce genre là et ben en fait ils commencent aussi à te dire ah bah ce nouveau groupe là, ah ils font du Squid, ah ils font du Ice Age, ah ils font du Idols, ah ils font du Precopations, enfin tu vas toujours leur attraper un des groupes qui a été là avant, mais après c'est pas parce qu'ils trouvent ils trouvent des similitudes que les groupes ne sont pas bons pour autant. Genre des fois ils font très bien le taf de ressembler un peu à cette chose là en faisant leur chose particulière, et aussi ils se considèrent pas eux comme le groupe qui révolutionne toute la scène et tout ce genre là. Enfin voilà, pour synthétiser un peu cette question, cette réponse.
Beaucoup d'humilité au final dans cette réponse. Et pourtant, je sens que ça va retourner le grand chapiteau. Ce soir, je le rappelle, c'est en clôture du grand chap et en clôture de cette troisième soirée de quart de tour à 50:30 sous le grand chapiteau. Merci beaucoup, Didier, d'être venu répondre à nos questions.
Merci.
On s'écoute un morceau. Taxi Man dans le Radio Bataillon Flying Circus.
Taxi man, do a taxi derby in the proceed. While he's dropping me around, I know I'm going, I just wanna be gone. He gives the meter running, he gives the engine hot as I step outside into the freezing cold. I race to light like a bug, but I flap my wings like a bird. And I flap hard enough to keep myself afloat in the frigid air. So I get back in. And I tell him to keep on driving. So I get back into the car. And I tell him to keep on driving. So I get back into the car. And I tell him to keep on driving. Open eyes, they're drowned by the light. The wheels still spin, my bones crack. And the haze of the day hides a spring from the dense where the foxes gather around. Pull the teeth from the gums of their young. Use them to build their houses. Stretch the skin across window panes. Use them to build their houses. Stretch the skin across window panes. So I get back into the car and I tell him to keep on driving. So I get back into the car and I tell him to keep on driving. So I get back into the car and I tell him to keep on driving. So I get back into the car and I tell him to keep on driving. Taxi man leans into the backseat, pulls his half, gestures towards me, stuff my hand into my pocket, fill it with all I can find. He returns it to his head without saying a word. Done talking for the night. I'm just talking to myself. I'm just talking to myself. And I'm just talking.
savais que le cirque avait débarqué, toi ?
Radio Béton, Flying Circus, toujours en direct pour ce troisième jour de festival. Les interviews s'enchaînent mais ne se ressemblent pas et on revient a priori en local avec Mayut et Ricardo pour une nouvelle interview.
Exactement.
Je vous laisse procéder les amis.
Ouais ouais carrément, bah on accueille les bleus Shinobi.
Coucou.
Il y a même Pablo qui s'est mis à la technique pour l'occasion quoi. Et voilà. Et ben, on est super content de vous accueillir. Je suis avec Ricardo. Je suis avec Ricardo parce que bah quand même, je vous connais pas mal. Vous êtes venu la dernière fois, il me semble, en 2022, et j'avais fait l'interview. Et du coup, j'ai demandé à Ricardo un petit plus d'innocence et
bah
de
oui.
Et puis de qui vous connaît pas, qui écoute pas forcément votre musique d'habitude parce qu'il connaissait pas. Et du coup, il va nous apporter une petite touche de fraîcheur parce que moi, la fraîcheur, c'est fini.
Bah oui, et puis vu qu'on est sur une émission diffusée dans la France entière et internationalement, voilà, je voulais apporter une petite touche de mec qui vient du Far West et qui est pas du tout de la scène locale. Et bah, j'ai kiffé de fou votre musique. Comment vous définiriez justement un auditeur comme moi qui. Quand vous lui donneriez envie d'écouter, c'est quoi votre style ? C'est quoi le game ?
Pop coloré ?
Pop bleu ?
Oui.
Qui va un peu vers du rock, j'ai l'impression.
Oui, qui tend un peu vers le rock.
Ah !
Avec un côté pas prise de tête, fun, mais quand même assez léché dans les arrangements, sans que ce soit trop pesant.
Oui. Si on devait faire un petit
surtout le nom du style d'ailleurs.
Ah, le nom du style on n'y arrive pas hein. Ça fait 5 ans qu'on n'arrive pas à trop mettre
ouais mais je crois que c'est pas grave hein.
Pop, c'est pop.
Si on devait faire un petit retour, vous en êtes où dans votre discographie là, sur vos nombreux projets?
On a sorti un premier EP qui était le tout début du projet en 2021. Après on a sorti un premier album qui est sorti en 2024. Et voilà, qui était un peu le résultat de 2-3 ans de compos accumulés. Mm. Et puis là, on vient de finir de mixer un album qui va partir au mastering. Okay. Et la sortie, on ne sait pas encore.
Et j'ai cru lire que vous faisiez ça un peu maison, vos enregistrements. Je ne sais pas si c'est le cas de ce nouvel album que vous venez de finir de mixer. Mais j'avais cru lire que, par exemple, le premier EP, c'était vraiment enregistré chez vous. C'est un truc qui est important pour vous de rester dans cette esthétique-là, ou alors vous voulez bosser avec des gros studios et des trucs comme ça?
Bah en fait, on a assez de chance parce que Pao, il a un studio à la maison et il sait faire ça très bien. Et du coup, on profite un peu de ça et on est très à l'aise chez Pao, j'ai l'impression.
Puis, j'ai l'impression aussi que c'est une manière de garder le contrôle sur notre musique aussi et de vraiment prendre le temps de faire des arrangements qui nous plaisent, de se laisser du temps en fait pour réfléchir et faire des arrangements vraiment sur la durée.
Ouais, et puis du coup le premier album par contre il n'a pas été fait de cette manière là, il a été enregistré en studio et ça nous a permis de nous rendre compte que c'était peut-être pas là où nous on se sentait le plus à l'aise.
Ok.
Et qu'on aimait bien... Enfin, du coup, ça a été enregistré sur un court temps, et du coup, ce qui fait que ça amène pas mal de contraintes, et qui fait que là, sur le nouvel album, on a préféré faire ça plutôt à la maison et bien prendre le temps.
Vous avez une esthétique de clip aussi qui est hyper léchée, assez. C'est qui les fait vos clips? Vous les faites
Ouais, on en a fait deux avec Anthony de Hamim. Qui est un super réalisateur qui est en ce moment même en train de nous faire un autre clip. Et on en a fait un avec Julien Phillips, je crois.
Et une live session avec
Et une live session aussi, ouais. On a un peu nos deux réalisateurs préférés de Tours.
Si vous deviez demander à un réalisateur, genre de cinéma, de faire un clip pour vous, ce serait qui?
Ce serait David Lynch.
Yeah.
Moi j'allais dire ça aussi.
Mais... Il a fait des clips de ouf en plus.
Mais on comprendrait rien.
Après, un peu bresson pour
Gondry.
Ah, Gondry, bah ouais.
Ah, ouais.
Grave.
Ouais, alors je connais pas leur nom, mais il y a moi, il y a des clips de vous qui me font penser un peu aux Beatles dans l'esthétique. Genre la période après Ravi Shankar avec les costumes indiens de toutes les couleurs et tout. Moi, ça m'a. Enfin, il y a certains de vos clips qui m'ont fait penser à ça. C'est une ref ou pas tant?
Dans la zik, oui. Dans l'esthétique, je crois pas.
même s'il y a eu quand même une petite période où les vêtements, il y avait des trucs un peu années 60. Inspiré par la zik, ouais, des Beatles, mais...
Une utilisation des couleurs, quoi.
Bah, justement, alors j'imagine que vous en avez déjà parlé plein de fois en interview du nom Bleu Shinobi, mais le fait d'avoir un nom de couleur dans son nom de groupe, c'est hyper évocateur, ça met direct le ton. Je me demandais déjà si vous étiez tous... si vous aviez tous dans le groupe une connexion avec cette couleur bleue, si ça vous convenait vraiment, et si jamais le groupe il devait s'appeler une autre couleur, genre vert Shinobi ou rose Shinobi.
Ça sonne hyper mal, je trouve, vert Shinobi.
Ça sonne pas pareil. Ouais.
Mais c'est une super couleur.
Je crois qu'on est tous ok avec le bleu. Hein.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Vous avez testé d'autres noms de couleurs, vous avez brainstormé sur la couleur au
départ? Non, on a brainstormé à fond lors d'un café tous les deux avec Zaya, et puis il y a Bleu Shinobi qui est sorti, et Shinobi Pizza qui est sorti.
Shinobi Pizza, ouais.
Et en fait, Pao, lui, voulait toujours avoir un groupe, enfin Zaya, il m'a dit que Pao voulait avoir un groupe avec le mot bleu, et on s'est dit, bon bah Bleu Shinobi, on a checké s'il y avait des trucs beaucoup qui s'appelaient Bleu Shinobi, il y avait juste un... Chaque fois je dis illiquide, mais c'est pas ça.
Ouais, si, c'est un illiquide, mais c'est genre Shinobi voilà. Blue ou un truc comme
donc
ça.
Donc on était bon pareil sur le référencement.
Vous avez pas eu de problème
dirait,
de copyright avec un illiquide?
Non.
Ouais, c'est cool quoi.
On peut peut-être même sortir notre alors, liquide.
Quand même, sur le nom, moi je me rappelle qu'en 2022, c'était sur l'affiche d'Ocar, vous jouiez en même temps avec Papier Tigre et Tigre Bleu. Ce qui nous a valu, nous, des petits jeux de mots à base de Papier Tigre Bleu Shinobi. Voilà, on a. On a fait des jeux comme ça, quoi. Et j'ai vu aussi sur votre Insta un live maison, on va appeler ça, parce que c'est pas un live studio du coup, vu que le studio c'est à la maison, mais un live maison, c'est une habitude que vous allez répéter parce qu'elle est stylée la vidéo.
Où on est tous les uns sur les autres là.
Ouais.
Ouais. En effet, c'est un live appartement de Zaya même. Bah ouais, on a envie de refaire.
Ouais, on aimerait bien, ouais. Dans tous
c'était,
nos appartements.
C'était un bel exercice pour nous à faire.
Vous devez kiffer les tiny desks du coup, non?
Oui.
À fond.
Ce serait lequel votre tiny desk de référence un peu
On en a peut-être tous un différent.
Il y en a tellement. C'est trop dur.
Moi j'ai Tyler the Creator.
Ah, il est ouf.
Mais bien plus.
Et Doichi.
Moi j'ai Osborne Doichi. Brothers. Qui est un truc de country. Et puis du coup c'était. C'était les Tiny Desk qui étaient sortis pendant le confinement, et du coup ça se faisait à la maison, et du coup je trouvais ça encore mieux.
Ouais. Il y a ce groupe, pardon.
Il y en avait juste un qu'on a regardé justement pendant le confinement, de Mon Laferté, où c'est dans une église et elle est enceinte et elle déambule, et c'est vraiment assez extraordinaire comme live.
Ça vous a pris combien de prises de faire cette vidéo?
On a fait en une seule prise, hein.
Ah ouais, non, ouais, carrément. Yes.
Non, je sais pas, c'était 7, vraiment... 8, pour être honnête, 8. C'est pénible à faire ce genre de truc.
Ouais.
Mais le résultat est cool. Mais sur le moment, moi, j'ai râlé pas mal.
Ouais, parce que ça, quand on le regarde, là, c'est hyper hyper après-midi à la maison. Tiens, si on s'asseyait pour jouer de la zik,
mais
je me suis dit, ça doit être plus compliqué que ça, quoi.
C'était pas loin de ça, mais pas sans effort.
Ouais, ça nous a pris une bonne après-midi, je dirais.
Ouais.
Et là, en live, vous prévoyez d'avoir quelle énergie pour une salle comme ça? Est-ce que vous bossez ce type de live-là différemment d'un autre concert que vous feriez peut-être dans une plus petite salle ou je sais pas quoi? Ou alors est-ce que vous vous êtes dit, vas-y, on fait notre truc?
J'ai l'impression qu'on fait notre truc et que l'espace permet plus de liberté. Et notamment au chant, on est toujours très contente d'avoir des grands espaces où on peut vraiment, qu'on peut vraiment occuper. Et en plus... dans l'idée de chanter avec des micros HF où on peut vraiment bouger sans contrainte, ça, c'est vraiment super.
Ça c'est un appel au slam, je pense.
Ouais.
Vous voulez slammer en fait jusqu'à la console.
Moi
c'est
j'aimerais
ça
bien qu'il y ait des gens qui slament ce soir dans Bleu Shinobi. C'est un appel.
C'est un appel au slam.
Écoute, apparemment, a priori, le public d'Ocar arrive à porter Made In. Donc je pense que vous êtes.
C'est le public d'Ocar de 23h30 qui porte Made In, pas de 20h30.
Est-ce que vous êtes tous sapés en bleu sur scène, ou alors c'est vous faites plus fin?
Moi, il y aura du bleu un peu, ouais.
Disons qu'il y a une palette de couleurs et qu'il y a du bleu dedans. Voilà. Qu'il y en a toujours eu, mais c'est pas complètement bleu.
Et prédominant. Enfin,
et
c'est
donc
pas
vous
prédominant.
Disiez tout à l'heure un petit bout de rock. On peut s'attendre à ça?
Ah
des
ouais,
petits bouts de rock en plus.
Oui, peut-être. Une locomotive finale même, je dirais.
Et vous kiffez de cet apport?
Ah ouais, grave, ça ramène du nouveau, j'ai l'impression. C'est... Ça change un peu, c'est très fun, ouais.
Et puis en live, c'est très agréable de jouer du rock.
Ouais.
Là où jouer une musique plus calme, c'est pas toujours hyper facile.
Ouais. Ouais, notamment dans le retour du public, le fait que les gens ils aient pas peur de bouger la tête et le corps. Oui, c'est agréable. Ça, tout de suite, ça, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un échange, quoi.
Bah, c'est vrai que c'est toujours tendu dans ces scènes musicales là de chauffer un public avec un truc calme, alors que c'est trop bien les concerts dans des studios. Enfin, moi j'adore aller écouter les trucs. Moi je suis fan d'ambiance par exemple. C'est dur de se chauffer de ouf sur un set d'ambiance. Enfin, c'est des ambiances assez spéciales quand même.
Et le public peut être hyper à fond sans bouger pour autant. Et...
ouais, c'est ça. Ce serait quoi, vous, le meilleur public que vous ayez jamais eu, mis à part évidemment le public de ce soir qui va être une dinguerie, j'imagine.
C'est hyper dur.
Ouais, bonne question.
C'est chaud. Bah, des gens qui sourient et qui... je sais pas.
Je pense que notre meilleur public, c'est ce soir.
Oui, voilà. Oh, c'est là, qu'on l'a oh pas là, encore
ça,
eu.
C'est, alors ça,
c'est beau, école de commerce.
Politique locale, bientôt. Hein. Et bah, nous, en tout cas, on est méga pressés de voir ça. Moi, je serai là-bas, c'est sûr. Et ça se passera à 20h en ouverture. Premier groupe, juste après le Pintocard. Et puis voilà, bah, de toute façon, le chapiteau, il va être plein. Et puis, nous, on vous souhaite un méga bon concert. On est content de vous avoir reçu.
Yes.
Merci,
merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et puis, à dans pas si longtemps, je pense.
Bah, ouais, à grave. Très vite.
Voilà. Merci,
bisous.
Bleu Chinook.
Merci.
La bise.
Avec Until We Are Old. And I kinda miss you all. And I miss the night so cold. Under the stars, how is life for you these days? Are you happy? Are you sad? Feeling like I'm missing out. Sometimes I find regretting this innocence we had, all we need. Then I see that we all follow the path that we like and have a blast. Nothing can change this moment stuck in our heads, 'cause we laughed 2,000 times. Nothing can change the link we have even when we're apart 2,000 miles.
Comme ce cirque géant est merveilleux.
sur les flots, la croisière du Radio Béton, Flying Circus, toujours en direct de ce troisième jour de festival au quart de tour, avec cette fois-ci au micro pour vous donner tous les détails de ce qui se déroulera ce soir et plus encore, la Ciguë qui seront interviewées par Louise. Salut à vous tous!
Hello!
Salut!
Salut tout le monde! Salut Chloé, salut Étienne. Déjà, comment ça va? Toujours pareil?
Ça va, ça super va.
Nous, on est super heureux aussi de vous accueillir au quart de tour. On va pas se mentir, Radio Béton au quart de tour, tout ça, c'est des choses que vous connaissez bien. Nous aussi, on vous connaît assez bien. Et généralement, c'est toujours un peu un milestone, une étape un peu cool de passer sous un chapiteau d'au quart de tour. Comment vous vous sentez à l'approche de ce concert-là, qui doit avoir un petit peu une saveur un peu chouette pour vous?
Bah, je crois que t'as tout dit. En gros, hyper content de passer à Oka parce que c'est un peu notre festival préf, parce que c'est le meilleur des festivals, ouais. Et puis du coup, il y a aussi tous les copains et tout. Voilà quoi. Donc excité, on a hâte.
Étienne fait oui de la tête. Je pars du principe qui valide. Moi, je suis ni berrichonne, contrairement à vous, et ni trop au fait de la musique traditionnelle, ni du baltrad, etc. Du coup, j'ai un peu envie qu'on parle de ça, parce que je me dis que si moi, j'y connais pas grand-chose, il doit y avoir plein de gens qui nous écoutent qui n'y connaissent pas grand-chose non plus. Mais j'ai quand même la sensation qu'il y a un gros retour de cette musique-là, cette culture-là, ces dernières années. Il y avait aussi Koukani qui était là mardi soir, donc c'était de la musique traditionnelle occitane pour le coup. Elles ont eu l'occasion aussi de passer à notre micro et de nous raconter un peu ce que ça représentait pour elles. Mais du coup, là, on parle de vous et j'avais envie de savoir déjà ce qui vous avait donné envie de remettre un peu cette musique-là au goût du jour, comment vous y êtes arrivé, un petit peu les origines du projet finalement.
Tellement de questions.
Pardon, je suis pas quelqu'un de très concis.
Déjà, moi, je pense que c'est pas tant un renouveau. Le baltrad, il existe, il fait sa vie depuis des années en parallèle du grand public peut-être. Et effectivement, ce qui est nouveau, c'est peut-être que ça commence à s'insérer pas mal dans les musiques actuelles et que du coup, il y a des gens qui ne connaissaient pas ce qui se passait dans le baltrad, qui maintenant, ils sont de plus en plus exposés parce que les barrières tombent et les groupes s'exportent dans des salles où ils n'y allaient pas avant parce qu'on disait c'est trop trad ce que vous faites, alors que maintenant ça bouge et ça c'est très cool. Et effectivement, nous on s'insère là-dedans parce que ce qu'on fait ça se danse en baltrad, mais les sonorités qu'on a elles sont quand même beaucoup plus des musiques actuelles, on va dire, avec des gros synthés qui imitent le drone de la vielle à roue, le violon de Chloé qui est le violon mais qui est trafiqué avec plein de pédales d'effets et de choses comme ça, les voix qui sont très traitées en termes d'effets aussi, la batterie qui est pas un instrument qu'on retrouve vraiment dans les musiques traditionnelles, donc tout ça ça apporte cette couleur, ouais.
Et du coup, justement, tu disais que ça a toujours existé, mais peut-être en parallèle du grand public, comme tu le disais. Comment vous expliquez que peut-être maintenant le grand public s'intéresse plus à ça, alors que c'était considéré comme quelque chose d'un peu niche avant? Je ne sais pas si le mot niche est adapté, mais...
En vrai, on n'arrive pas trop à expliquer. Je pense qu'il y a eu des groupes un peu précurseurs, en tout cas, qui ont poussé la locomotive, qui ont été la locomotive, justement, genre comme Super Parquet, Cocagne aussi en fait partie. Qu'on réussit peut-être à atteindre d'autres publics parce qu'effectivement il y a des sonorités auxquelles ce public-là était plus affilié, familier et tout ça. Mais on n'arrive pas trop à définir ce pourquoi du comment de maintenant ça revient. Peut-être aussi parce qu'en fait il y a des gens qui font de plus en plus l'expérience du bal et qu'en vrai c'est vraiment, vraiment une expérience collective qui est incroyable à vivre. Et qui est super chouette, quoi.
Je pense que ça joue beaucoup. On s'est retrouvé à un moment à avoir un public qui va dans des festivals ou dans des salles uniquement pour voir des grosses têtes d'affiches qu'ils ont vues à la télé, etc. Alors qu'en parallèle, dans tout ce qui est des domaines de niche, que ça soit de la musique trad ou je sais pas moi, la musique irlandaise ou la country, les gens en fait ils vont à un événement parce que c'est un événement dans un style de musique qu'ils aiment, peu importe la programmation. Là, ils font confiance aux programmateurs, programmatrices. Eux, ils savent juste qu'ils vont apprécier le style de musique et l'ambiance. Et dans le baltrad, les gens ils viennent pour danser. Donc en fait, ils font confiance aux prog pour que les groupes soient cool. Et c'est un milieu en plus qui est très ouvert, qui porte plein de superbes valeurs. Et ça, je pense que quand ça a commencé à jouer dans des salles de musique actuelles, il y a un public qui est venu où les gens se sont dit « Ouais, mais en fait, c'est incroyable ce qui se passe. » Les gens, ils viennent, peu importe que le groupe soit connu ou pas. Il se passe des vrais échanges collectifs, la salle est vide de ouf. Et je pense que ça a joué aussi peut-être un peu à faire bouger les lignes.
Et du coup, vous en parliez, j'imagine que vous êtes parfois programmé justement dans des festivals plus spécialisés dans la musique traditionnelle. Est-ce que quand vous êtes programmé dans des festivals comme un peu au quart aujourd'hui, dont c'est pas forcément l'étiquette, voire même pas du tout, vous avez la sensation que c'est un public qui est plus dur à convaincre ? Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui ne savent pas forcément danser les danses traditionnelles et qui peut-être ce soir vont oser pour la première fois ?
Bah, en fait, il n'y a pas d'injonction à savoir danser, et c'est pas ce que nous on cherche à donner comme message. Souvent, en fait, il se trouve qu'il y a des publics à la fois de danseurs et ou de pas danseurs, et ces deux publics-là, en fait, commencent à se mélanger au fur et à mesure. Et c'est ça qui est hyper chouette, c'est qu'il y a des gens qui ne savent absolument pas danser et qui vont commencer à se joindre au cercle et tout ça, et qui vont kiffer l'expérience. Mais ça nous est déjà arrivé de jouer devant des néophytes qui ne savent absolument pas danser et qui finalement ça s'est transformé en gros slam et c'était hyper cool. Enfin, du coup, en vrai, je crois que nous on l'annonce comme un bal parce que effectivement tout est dansable, mais ça reste de la musique qu'on peut écouter et où on peut faire du headbanger dessus et ça marche aussi quoi.
Et du coup, comment vous composez vos musiques ? Est-ce que vous... Donc j'imagine que c'est quand même codifié, puisque ça se danse, comme tu le disais à l'instant. Est-ce que vous êtes 100% sur... Vous reprenez des patterns et vous composez tout de manière 100% originale ? Est-ce que vous faites des reprises ? Comment est-ce que vous... Voilà, vous composez en fait vos morceaux ?
Excellente question. il se trouve Merci. Que dans le néo-trad, effectivement, il y a plein de façons de jouer. Il y a beaucoup de gens qui vont reprendre des morceaux et les actualiser avec des sonorités différentes ou un instrumentarium différent. Nous, on fait que de la compo, texte comme musique. Et après, l'écriture, on se fixe la danse comme contrainte. Donc la danse, elle va imposer une plage de tempo, généralement pas très large. Elle va imposer les pas, donc certains appuis. Les appuis peuvent être à la fois rythmiques, à la fois dans la mélodie. Des fois, c'est la mélodie qui va lider certains pas de danse. Des fois, c'est plus le rythme. Et tout ça, ça peut suivre certains cycles aussi. Donc ça met pas mal de contraintes de structuration du morceau. Et à partir de ça, nous, on va se dire, oh, bah tiens, si on essayait de composer une polka, et on part sur ces contraintes-là, et puis on voit ce qui vient, quoi. Des fois, on s'arrête, on danse un peu comme ça, et on se dit, ah, ça va, c'est pas mal, ça se danse.
Ce qui n'empêche qu'à l'intérieur de ces morceaux-là, on peut prendre des libertés, tu vois, sur, effectivement, la rythmique et tout ça, qu'on va toujours, effectivement, garder une espèce de structure un peu fixe, quoi, mais perdre peut-être un peu le danseur à des moments, et que ça parte en impro, enfin, voilà, ça, en vrai, ça existe dans la musique trad, tu vois, de faire du jazz trad, ça existe, enfin, bref. Donc voilà, on a quand même de la liberté là-dedans.
Une fois, on a joué à un festival vraiment pour danseurs, quoi. Et y a des vieux qui sont venus voir à la fin du concert en disant « Ah, oh, on avait un peu peur avec vos balances que ça soit pas dansable ce que vous faites. » En fait, c'était beaucoup plus simple que sur le groupe d'avant. Le groupe d'avant, c'était vraiment l'instrumentarium classique de baltrad. Sauf que bah, les gars, c'est des virtuoses et puis ils se permettent des petits tricotis, des petits tricotas de temps en temps. Et du coup, les vieux, ils disaient oh, « Bah ça nous perd. » Alors que vous, au moins, avec la batterie, bam, bam, on sait où c'est.
Gros kick. Sale kick, on a dit,
ouais, effectivement,
la tête dans le caisson, quoi.
Trop bien, bah, ça... On encourage les gens à venir voir du coup ce que ça donne et puis à essayer de danser. Il y a aussi des gens parfois pour du coup avoir moi été un peu initié à ce monde-là il y a pas si longtemps. En fait, il y a des danses parfois un peu collectives où il suffit bon voilà tu t'insères un peu dans le cercle, tu trouves quelqu'un qui a l'air de s'y connaître, tu te mets à côté et puis t'essaies de suivre ce qu'il fait. Et c'est très chouette aussi comme énergie où justement tu te retrouves mêlé à quelque chose. Qui n'est pas du tout fermé justement à apprendre et à montrer quoi. Plus on est de fous, plus on rit quoi finalement.
Grave. Un parrainage
c'est
de
ça.
Danse.
Tu ouais. te trouves un parrain, une marraine collectif. Et puis tu t'y mets quoi.
Ouais. Et bien je vous propose tout gentiment qu'on voit ce que ça va donner ce parrainage collectif ce soir. Tu seras dedans ?
Bah oui bien sûr. Est-ce qu'on arrive à la fin ou est-ce que j'ai encore du temps ? J'ai encore du temps. Ah, c'est la fin.
C'est passé si vite.
Hyper vite, j'avais encore tellement de questions, mais c'est qu'on parle trop, on est trop bavard. C'est au Petit Chap ce soir à, j'ai noté, 21h50, je crois.
Oui. Tout à fait.
Donc n'hésitez pas à...
Une heure de danse.
Ouais, à venir danser. Vas-y, Étienne.
Taper du pied,
tout
ça, ouais.
Taper du pied, que vous sachiez danser ou pas.
Faire la vague. On est...
Tout à fait. Vous pouvez aussi être bangé, on l'a dit tout à l'heure. N'hésitez pas.
Et la preuve, on va écouter un morceau tout de suite qui s'appelle Debout.
Yes.
Merci encore.
Merci.
Debout mes frères,
derrière la mer, le soleil sonore. Debout mes frères, debout mes sœurs, cette nuit sera la dernière. Debout mes sœurs, debout mes frères, derrière la mer, le soleil sonore. Debout mes frères, debout mes sœurs, sur les cendres poussent les fleurs. Debout mes sœurs, debout mes frères, derrière la mer, le soleil se meurt. Debout mes frères, debout mes sœurs, cette nuit sera la dernière. Debout mes sœurs, debout mes frères, derrière la mer, le soleil se meurt. Debout mes frères, debout mes sœurs, sur les cendres poussent les fleurs. Derrière la mer, le soleil se meurt. Debout mes frères, debout mes sœurs, cette nuit sera la dernière. Debout mes sœurs, debout mes frères, derrière la mer, le soleil se meurt. Debout mes frères, debout mes sœurs, sur les cendres poussent les fleurs. Debout mes sœurs, debout mes frères, derrière la mer, le soleil se meurt. Debout mes frères, debout mes sœurs, cette nuit sera la dernière. Ce soir les chiens seront loups, ce soir les saints seront fous, ce soir les chiens seront loups, ce soir les chiens seront fous, ce soir les chiens seront loups, ce soir les saints seront fous, ce soir les chiens seront loups, ce soir les chiens seront fous, ce soir les chiens seront loups, ce soir les chiens seront fous.
Béton Flying Circus, avec le meilleur accent anglais du monde. Troisième jour de ce rendez-vous au quart de tour et des avant-goûts évidemment de ce qui vous attend ce soir avec les artistes qui viennent nous rejoindre. Et tout de suite, on va avoir l'occasion de discuter quelques minutes avec un collectif qui s'appelle Fulumiziki, et on vous souhaite la bienvenue sur les ondes.
Welcome.
Merci beaucoup.
Oh, vous êtes extrêmement synchro.
Ouais.
Vous êtes un collectif.
Ouais.
Bienvenue, bienvenue à Tours en tout cas.
Oui, on est ravis aussi d'être là.
Très content de votre venue, très content. Alors, Fulumiziki, déjà peut-être commencer pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de vous, parce qu'il y en a quand même, c'est sûr, les malheureux.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du Lingala, j'ai lu.
Oui.
Ouais.
Oui,
vous pouvez parler.
Lingala Fulumiziki. Fulu,
c'est poubelle.
Poubelle en français. Et musique, c'est musique.
La musique des poubelles.
Différemment, ouais. Avec Z.
le Lingala, du coup, vous pouvez parler cette langue un petit peu?
Ouais.
Parce qu'il y a pas mal de langues. Vous venez de la République du Congo, Kinshasa.
Bah, c'est des langues, quoi.
Il y a beaucoup de langues. Ouais.
Quatre ans, quelques dialectes comme ça.
Vous, vous parlez Lingala dans votre quotidien?
Ouais.
Ok, très bien. Et donc, c'est la est-ce que c'est la langue que vous utilisez dans le groupe et est-ce que c'est la seule langue dans laquelle vous chantez?
Ouais. Les bases, c'est la seule langue qu'on chante. Après, il y a quelques morceaux qui ont, on essaye de mettre la langue française pour un peu faire écouter les messages, quoi.
Pour qu'on, ouais, que ça soit compris par d'autres personnes.
Ouais. Okay.
Et vous faites du twerkanda. Alors ça, c'est pareil, il va falloir que vous nous expliquiez un petit peu qu'est-ce que c'est que ce twerkanda.
Twerkanda?
Ouais.
Ben là, twerkanda, c'est les gens qui nous ont surnommés comme ça.
Ah, ok.
Ben après, c'est référence au film de Wakanda.
De Black Panther.
Panther, Black Panther. Et là, nous aussi, on est du Congo. Et l'histoire, ça se joue à Congo, Ouganda, Burundi. C'est un peu de même gens qui ont même endroit où ils ont imaginé le film.
Le cœur de l'Afrique, l'African Power.
Oui, c'est ça.
D'accord. Bah, comme quoi dans Internet, hein, parce que nous, on avait lu que c'était vous qui aviez inventé ce mot-là. Donc déjà, le monde est en train de mentir dans tous les sens.
Pas mentir, mais il dit juste la vérité. C'est la source.
C'est la source
nous,
de tout,
on
quoi.
Est Congo. Congo, c'est la source un peu de tout. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça.
Dans vos collectifs, il y a plein de choses très singulières, notamment autour des instruments et de la conception des instruments à partir de matériaux de récup.
Des déchets.
De déchets.
Ouais.
Vous les récupérez un peu partout d'ailleurs, ces déchets.
Partout.
Parlez-nous un peu de ça. Comment on conçoit des instruments? Est-ce que c'est à partir d'instruments traditionnels? Est-ce qu'il y a un souhait de ressembler ou pas du tout?
Ben là, c'est pas,
non.
C'est pas vraiment traditionnel, c'est inspiré de nous-mêmes. Parce qu'on a fait un truc, on s'est dit, on va faire la recherche des sons. À base, pas des instruments qu'on connaît, mais à base de rien.
De rien.
C'est là qu'on s'est dit, ouais, pourquoi pas créer des instruments comme on faisait quand on était des gamins. On rentrait dans la maison après les répétitions de nos grands frères, des groupes qui étaient dans des environs de nous, de nos quartiers. Quand nous, on rentrait chez nous, on prenait des assiettes, des cuillères et puis on ramassait des choses.
Et on faisait la musique avec.
Reproduire ce qu'on voyait dans des répétitions de nos grands frères. C'est ça qui nous a aussi poussé à comprendre que oui, avec un peu tout, on peut créer aussi du son. C'est là où on a dit oui, on va faire à la requête de nouveaux sons. Et il y a quelqu'un aussi qui nous a aidé en ça, Renaud Barré.
Ouais. C'est un Français.
Qui a fait un documentaire.
Et à la force,
tout à fait.
À la force de rechercher, de faire, on sait même l'inspiration de se poser la question d'où ça venait la musique qu'on joue aujourd'hui. Mm-hmm. Que tout le monde dit musique. Comment ça commençait? Nos ancêtres commençaient comment? Nos ancêtres, vos ancêtres, ancêtres de la planète. Ils ont commencé
cognant des cailloux.
Ils n'avaient pas de guitare, ils n'avaient pas de batterie. Cette inspiration-là a tombé en nous aussi.
Donc c'est un peu une recherche de musique primitive du début.
Vraiment
des vrais sons. Sans mafia, quoi, sans triquer.
Mais il y a un truc quand même à Kin Label, il y a pas mal de projets justement qui sont sur ce mode de récupération, fabrication d'instruments.
Oui.
C'est quand même le style Kinshasa, non?
Oui. C'est un vague. Comme c'est partout, si l'ordinateur est arrivé, tout le monde va suivre. Aujourd'hui, intelligence artificielle, tout le monde les suit. Donc c'est un vague, ça tombe au Congo, quoi.
Ces instruments, ils évoluent quand même. Vous les adaptez continuellement ou vous les avez préparés à la base et vous les utilisez tout le temps maintenant?
Ben là, on l'utilise tout le temps, mais on a beaucoup d'instruments. Et du coup, comme on voyage un peu partout, on n'a pas à amener tous les instruments parce que là, il y a
des kilos. On n'a pas d'argent de payer des kilos à la vie.
Ouais. Et après, on s'adapte avec ce qu'on a. Et des fois, on rajoute aussi d'autres instruments.
Ça change un peu, mais ce n'est pas. On a fixé ça et ça et ça et ça. Mais sauf que ça fait faire 2 mois après. Je dis ça, ça peut venir ça, je complète ça et ça. Et il y a des sortes d'autres festivals, ça fait qu'on arrive là, on nous a donné 4 jours. Dans 4 jours, on a baladé dans l'air poubelle. Et on a créé un trick. Ça sera un nouveau son chez eux quand on va jouer.
Ok. Ouais.
Donc des fois on part dans les endroits, on donne le temps, on fait les ateliers avec les enfants, on fait les ateliers avec les habitants, on fait un premier morceau avec les habitants, première partie. Après le soir, on finit dans la scène avec quelques instruments qu'on a fabriqués avec vous et avec nos instruments.
Bah, peut-être on peut enchaîner là-dessus justement puisque vous le lancez. Hein. C'est vrai qu'il y a ce côté accompagnement qui a l'air très très présent, hein, une implication politique et sociale que vous avez l'air de porter fort. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ces ateliers que vous menez avec des jeunes principalement, j'imagine?
Toutes les générations. On fait avec des vieilles, avec des jeunes, avec des petits. Notre message, c'est basé de ne pas négliger la terre. Parce que si tu nettoies autour de toi, demain, je ne crois pas, on dira qu'il y a un changement climatique, il y a la terre qui s'abîme. Donc, on met dans la conscience des gens, tu peux créer à travers des riens et tu peux aussi nettoyer ton environnement à travers des riens. Vraiment, c'est une démarche pas vraiment politique, mais c'est éco-politique.
Ah, ouais, quand même.
Ouais.
Ça va au-delà aussi des instruments? Puisque vous le portez sur vous.
Ouais.
Ça aussi, il y a des tenues.
Ouais.
Moi, quand je les ai vues, ces tenues, je pense à des super-héros, quoi. Et je me dis, mais comment vous. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Comment vous vous sentez dans vos tenues et comment vous les confectionnez?
Ben là, on voulait vraiment.
C'est ressembler. Faire...
Tu vois, nos instruments, c'est. C'est des instruments qui est unique et puis ça c'est à part vraiment parmi d'autres instruments qu'on connaît. On s'est dit si on portait des jeans et des cuirs ou des tissus fabriqués créés par d'autres personnes, ça serait pas vraiment nous.
Ça donne pas les mêmes.
Il fallait donner un sens à notre musique, à nos fabrications, aux instruments et aussi à ceux qu'on pouvait porter pour rendre vraiment ce qu'on fait visible, que les gens voient. C'est pas seulement la musique ou la création des instruments, mais c'est tout. Donc les gens peuvent aussi créer des instruments avec du déchet.
Tu peux créer des pots, des fleurs avec des déchets. Tu peux faire tes décors à la maison avec des déchets. C'est juste, nous on était allés dans l'essence artistique. L'inspiration tombait dans l'essence artistique. Mais ça peut tomber aussi dans d'autres sens, bricolage, esthétique, tu vois. Comme au départ, on a dit, d'où vient la musique? D'où viennent les habits? C'est le même thème. Donc, on a cherché loin. Nos habits, c'était toujours, premièrement, c'était créé, mélanger ça et ça, ça donnera quoi? Nous, on est allé par là. Entre-temps, ça aide l'environnement. Entre-temps, ça montre la force. Création quoi, du présent.
On sent que vous voulez être unique et en même temps, j'étais en train de me dire, c'est bizarre parce que vous avez presque besoin de ces déchets, c'est votre matière première. Oui. Et en même temps, le volume de déchets qu'il y a dans le monde et la conscience écologique que vous avez l'air d'avoir, il y a presque un truc contradictoire. Vous les aimez et vous les détestez en même temps?
Non, on veut pas qu'on soit unique. Non, on voulait faire du sang unique, mais ce n'est pas que ça reste qu'à nous. Non, l'autre équipe, ça peut sortir en France, mais il travaille dans la déchet. On va acclamer sur ça. On partage l'idée pour tout le monde. C'est par là qu'on fait les ateliers avec les enfants pour leur montrer ce que nous on pense, ce que nous on voit, ce que nous on connaît. Peut-être les enfants de demain aussi, ils feront leur orchestre avec les déchets. C'est par là qu'on veut que ça se partage, ça. Tout le monde voit notre idée et évolue. Mais sauf que unique, ça soit... On ne dit pas ça unique dans le sens contradictoire, dans le sens que ça soit vraiment unique dans l'idée. Vraiment, on part à la poubelle, pas pour rien. Pour faire unique une chose unique, les gens ils vont dire waouh, pas mal. Je peux laisser mon enfant faire ça. Je peux laisser ma femme faire ça. Je peux autoriser mon mec faire ça. Parce que nous, au départ, il y avait pas mal de gens qui nous ont détestés. Ils nous ont vraiment vu comme on est des gens qui ont devenu des fous.
Pourquoi?
Parce qu'on partait de la poubelle et cherchait de nouvelles sons. Et tu sais combien de fabrications on a fait, qu'est-ce que ça n'a pas abouti qu'on a jeté. Parce qu'il faut chercher, chercher, chercher. Ça a pris du temps. Je ne sais pas, Debout, il a des idées sur ça aussi, il va parler.
Ah ben ouais, c'est ça. Des fois, c'est pas facile de travailler avec des déchets. Parce que nous, il y a, chez nous à Kinshasa ou au Congo, en Afrique, il y a beaucoup de maladies qui viennent à travers des déchets.
C'est un dépositoire de déchets du monde entier, quoi. C'est un dépositoire.
Ben nous, on a assumé ça, on a risqué. Et puis, on a fait ce qu'il fallait faire. On a créé, malgré que c'était pas. Tout n'était pas vraiment.
Quoi.
Tout n'était pas parfait avant. Mais on a essayé jusqu'à ce qu'on a trouvé les sons et les formes des instruments. Et à partir de là, ils nous viennent aussi en esprit beaucoup des idées, des créations. C'est pour cela qu'on partage ça avec des enfants dans des ateliers où on fait, comme nous, quand on va finir ici, moi et un de nous, on va aller à Nantes pour un atelier avec les enfants.
Okay.
Donc demain.
Ouais.
Demain,
on fait aussi.
C'est pendant toute l'année qu'on fait ça. Et on va jouer avec eux, je crois, en juillet. Et nous tous, on sera là avec les enfants. On va jouer avec eux, avec leurs instruments qu'ils ont créés avec nous. Et leurs costumes et leurs masques, tu vois.
C'est notre démarche de partager cette volonté d'aller à la poubelle. Parce que tout le monde passe à la poubelle. Tandis que la poubelle, ça existera. La maladie, ça va se propager, ça va se créer. Alors, si nous-mêmes, déjà, les petits peuples, on se motive de faire des choses, parce que des gens qui nous créent des choses, ils ont fait les usines de création, mais ils n'ont pas fait les usines de ramassage. Ils disent seulement l'État, il faut payer les gens pour aller nettoyer les rues. Oui, c'est vous qui créez les pochettes de tabac, c'est vous qui créez les boîtes de quoi là, c'est vous quoi. On ne vous quise pas, mais on vous donne une idée. Vous pouvez faire aussi des dépôts ou des sociétés de récupérer, broyer ou changer à notre matière.
Des
à
machines,
notre idée, quoi. Il y a machines.
Des machines à transformation.
Des choses, il y en a.
C'est qui peuvent transformer les déchets en quelque chose. Comme nous, on prend les déchets, on fabrique des instruments. Mais si des grandes entreprises ou des usines qui peuvent faire aussi avec des déchets, de transformer ça en quelque chose pour servir encore les gens, ça fera du bien. Ouais. On aura moins de déchets.
Dans la rue.
On va faire des déchets, mais on va les
retravailler.
Ouais, c'est ça.
Et les faire revivre, ouais.
Ouais. Ah ouais.
On est à la dernière question déjà, et on se demandait aussi, là vous êtes en tournée en Europe, comment est-ce qu'on peut éviter aussi de parler de la manière dont c'est plus difficile pour vous d'avoir les visas, de venir en Europe, comme c'est plus cher aussi, et du coup peut-être nous parler justement de cet aspect-là, de diplomatie et de tournée musicale, un petit peu comment ça se passe pour vous.
Et pour le moment, nous on a un peu la chance, on a un visa talent, on est basé à Marseille, on est en France. On n'a pas vraiment de gros problèmes d'aller-retour, machin, parce qu'on est là. Mais sauf on a des problèmes pour voyager, pour nos bagages, pour nos costumes. Au départ, il y avait toujours des fouilles. Ouvre ton sac, qu'est-ce qu'il y a, le bois là, ça fait quoi, c'est sale, tu vois. C'était comme ça. Et aussi, on trouve des choses racistes. On a croisé ça dans une compagnie, on ne peut pas dire les noms, parce que... On aime tout le monde. On a croisé ça.
Vous êtes sympa.
Il ne voulait pas qu'on monte dans son bagnole, quoi. Il ne veut pas. Il veut montrer les papiers. On a tout montré les papiers. Il a appelé les flics. Et les flics, ils ont vu nos papiers. Ils étaient là. Ils sont en ordre, mais c'est, il faut qu'ils partent à l'étalier. On a raté de jouer la 7 ces jours-là. On n'a pas joué. Donc, on a fait Nice, Milan, pour faire aller-retour, pas jouer. On arrive à retard. Pour cette chose-là.
C'est une réalité que nous, on capte pas bien, et merci de
ça nous arrive,
confronter
nous.
À nos torts aussi, surtout ces...
Et on croise aussi des bonnes personnes qui nous accueillent dans la joie, qui nous partagent l'amour, ce n'est pas seulement des mauvaises personnes. Il y a aussi des compagnies qui nous accueillent avec...
En tout cas, au quart de tour, vous souhaite la bienvenue, et on est hyper content de vous recevoir et curieux de vous voir tout
merci,
à l'heure.
Merci de nous beaucoup. Inviter ici. Merci Mbele Moke.
Soubouye
Bele. Babou Kalinga Babrike. Namachina Galette. Radio Béton.
Yes.
Et sur Radio Béton, justement, on va continuer avec un petit extrait musical de ce que vous faites avec Timungwana Biloko.
Timungwana Biloko.
Fulumiziki.
Mets du sel dans la nourriture.
Dans la nourriture. Ça va donner.
Fulumiziki.
Et nous, on va en profiter pour vous remercier de nous avoir suivis, d'avoir suivi ces deux heures d'émission, à toutes les animatrices qui sont passées autour des micros, à tous les artistes qui ont répondu aux questions aujourd'hui. On vous donne rendez-vous tout à l'heure sur le troisième jour de ce festival au quart de tour.
Et un continuez. Gros big up à toi, Mo, pour l'animation de ces 120 minutes, PLB.
Et vous pouvez toujours suivre le festival sur Radio Béton, évidemment, 93.6.
Radio Béton, Béton à Béton.
Béton.